Salut, c'est Mimi Hegel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur Internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même at, à savoir MYMYHGL. Vous allez écouter un débrief de série, d'abord diffusé en live Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. On a commencé avec House of the Dragon saison 1 en compagnie de Tequila Tex, mais il y a tellement de bonnes séries dans le monde que ce flux continue à vivre, avec toujours des invités de qualité. Bonne écoute!
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut, c'est Mimi Hegel, et vous écoutez House of the Dragon, le podcast dans lequel Tequila Tex et moi, on débrief chaque épisode de la série qui nous ramène à Westeros. Ceci est un replay de Live Twitch, ce qui peut expliquer son aspect un petit peu chaotique. Retrouvez-nous en direct chaque mardi à 21h sur twitch.tv/MYMYHGL. Et pour info, chaque lundi sur mon Patreon, je publie le récap rigolo de l'épisode avec plein de blagues débiles dedans. Donc si vous aimez le snip snip, rendez-vous sur patreon.com/MYMYHGL. Et bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce débrief d'un épisode où on va parler écouter de pied. Hein, pourquoi pas? On parle beaucoup de mains dans Game of Thrones et dans House of the Dragon. Ce coup-ci, on va parler de pied. Entre autres, vous m'avez envoyé beaucoup de questions sur Instagram.
La main du roi.
La main du roi, tout à fait, bien sûr. Et de gens qui font des choses avec leurs mains. Mais ça, c'est Jaime Lannister avait une main en or. Moi, je pense qu'il a fait des trucs un peu border
effectivement.
Avec.
Effectivement.
Avant tout ça, on le fait rapidement. Le point spoiler. Bonjour, bienvenue dans ce débrief de House of the Dragon. Nous allons vous spoiler tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, donc jusqu'à la fin de l'épisode 9 de House of the Dragon, et tout ce qui s'est passé dans Game of Thrones. On va pas vous spoiler ce qui se passe après dans House of the Dragon, quand bien même on le sait, puisqu'on a lu Fire and Blood, et on ne va pas vous spoiler ce qui se passe dans le prochain épisode, puisqu'on ne regarde pas les trailers. En tout cas pas moi, Tequila Tex, oui, mais il a pas le droit de m'en parler.
Par contre, on va vous spoiler Lupin.
On peut vous spoiler Lupin et peut-être Rings of Power, mais j'espère pas, je l'ai pas.
On va grave vous spoiler Rings of Power.
Merci beaucoup Ashgal pour le sub, merci beaucoup. N'hésitez pas à sub à la chaîne si vous voulez soutenir mon travail, car je suis créatrice de contenu indépendante, donc personne ne me salarie pour être une grosse nerd. Avant oui, maintenant non, mais je préfère car je suis libre. On a une annonce pour la semaine prochaine, qui est le dernier épisode de House of the Dragon.
Préparez-vous à être triste.
Mais aussi ravi, ok? Asseyez-vous bien, accrochez-vous à vos sièges et tout. La semaine prochaine, pour le final, on aura un peu de retard sur le live pour une raison simple qui est que je pars chez ma famille au Maroc après-demain pour une semaine. Donc pendant le final de House of the Dragon, je serai au Maroc avec peu la fibre pour streamer, je vais pas vous mentir.
Tout
pour le final.
On va spoiler la série dont vous êtes en train de regarder un débrief. On va faire ce qu'on a dit qu'on allait faire, en vrai.
Ok. Pour le final de House of the Dragon, je ne serai pas chez moi à Paris. Donc, on ne va pas pouvoir liver le mardi, mais on live le vendredi. Du coup, j'ai noté le vendredi 28 octobre. Ce sera le live à 21h sur cette chaîne où on débriefera le final de House of the Dragon. Mais, je le dis comme ça, je suis obligée de le faire. Je vais quand même vous sortir un podcast le lendemain de l'épisode final, donc le mardi 25. Oui. Et normalement, c'est un podcast que j'enregistrerai depuis le Maroc avec une personne que j'aime beaucoup. Où on va quand même du coup débriefer l'épisode, mais ensuite on se verra avec
Teki.
Non, mais presque.
Non, alors j'aimerais bien faire ça avec ma petite sœur. Je vais proposer, je sais pas si elle a compris que c'était sérieux, mais j'aimerais trop.
Ta petite sœur qui croit que Alison est amoureuse de Rhaenyra.
Elle est pas seule, ok, plein de gens le croient. Mais oui, celle-là même. Doudou coucou.
On lui passe le bonjour parce que c'est beau de rêver.
Bien sûr,
c'est beau de regarder une série et d'imaginer les choses qui ne se passent pas dans une série. C'est beau.
Quel mauvais esprit. Du coup, notez le 28 à 21h, vous êtes devant cette chaîne Twitch pour le débrief du dernier épisode de House of the Dragon avec Tequila Tex. Et ensuite, si on a le temps et l'envie, peut-être qu'on se retrouvera pour parler de Rings of Power, pour peut-être faire un débrief
on
de
en
la saison.
On en fait un sur Rings of Power, mais c'est, la déconne.
Oui.
Et on prévient les gens
qu'on va mal parler
et qu'on va dire n'importe quoi.
Et faire des voix et des accents.
Ouais.
Et rouler. Alors moi, je sais pas rouler les R, donc je sens que je vais
donc
vraiment être humiliée.
Ce sera un podcast humoristique. On assume.
Tout
ce
à fait.
Truc-là.
Ok. Ok.
Je suis de mauvaise foi parce qu'effectivement, cette semaine, une personne que je suis sur Internet, dont je regarde des podcasts, a dit effectivement, il y a cette idée qu'il joue une love story entre Alicent et
Rhaenyra.
Et
tu t'es rendu compte que c'était pas que ma petite sœur qui l'avait imaginé.
Ouais, mais je me suis dit putain,
Justice for Doudou.
J'imagine quand même des choses, quoi.
Oui, bah après, alors on va voir qu'il y a des gens qui se sont imaginés des choses, même concernant cet épisode-là, où j'étais là, quoi ? Ah bon ? Mais ok, mais c'est intéressant de voir comment vous percevez l'intrigue quand vous n'avez pas lu le livre, parce qu'il y a vraiment des choses qui devraient être assez claires qui ne le
sont
pas. Vous
êtes tous des enfants un peu spéciaux. Hein.
Un peu comme Elena Targaryen.
Vous êtes tous des enfants spéciaux.
Mais on vous aime. Et nous aussi, on est des enfants spéciaux. On vous parle tous les mardis pendant 3 heures d'un monde qui n'existe pas et que je connais mieux que l'Europe occidentale actuelle. Donc bon, on est tous un petit peu spéciaux et spéciales.
Ouais.
Et c'est pour ça qu'on est bien ensemble.
C'est ok.
Ok, let's go. T'as pensé quoi de cet épisode, Teki ?
J'ai trouvé que... il était nécessaire.
Tu dis ça un peu comme on dit ça de...
Comme ma mère, quand tu lui fais goûter un truc qu'elle aime pas, elle dit c'est spécial.
Oui, j'allais dire, ça me fait penser à ce navet que j'ai mis dans ma poêlée de pommes de terre ce soir. J'avais un seul navet et j'étais là, je fais des patates, je vais le mettre.
Et en fait, je l'ai pris pour une patate pas cuite.
Oui,
Il a
été discriminé,
ouais,
le navet.
Je l'ai mis de côté et je me suis dit c'est une patate pas cuite. Bon, mais si j'avais su que c'était un navet,
en tant que tel.
Ouais, je l'aurais mangé différemment, tu vois.
Non, mais je comprends. C'est pas la texture à laquelle tu t'attends.
Exactement.
T'es là en mode, c'est non, tu vois. Mais
ouais.
Voilà. Pour toi, cet épisode, c'était un peu le navet de la poêlée de pommes de terre qui est House of the Dragon ce soir.
C'est peut-être pour ça qu'on appelle ça un navet.
Tout à fait. Pourquoi on appelle les mauvais films des navets? Vous avez Wikipédia, dites-le nous. Nous, c'est chiant de googler.
Je peux pas me dire du mal du légume navet dans sa totalité.
Non, on l'adore, on l'embrasse.
Parce que je pense que ça peut être bon, bien cuisiné, bien pris, ça peut être bon, un bon navet. Mais c'est vrai que
c'est jamais le meilleur truc, quoi.
On
c'est jamais le truc où t'es là.
Avec plaisir dedans que dans une bonne patate,
ouais.
Quoi.
Ouais,
d'accord.
Ouais. Une bonne patate. Merci beaucoup, AltF4, pour le sub.
Merci pour le sub. Personnage. donc moi je pense que c'est un épisode, en fait voilà, juste genre tous les épisodes c'est des 20 sur 20, celui-là c'est un 18 et voilà.
Ok, bah écoute, je suis un peu d'accord, même si je mettrais un peu moins que 18, je suis à 15, ok, je suis un peu sévère. Oh. C'est l'épisode que j'ai le moins aimé pour l'instant de la saison, après comme on disait tout à l'heure en off, sur cette saison, même les épisodes pas très bien sont quand même vachement chouettes et j'ai passé un bon moment et j'ai crié et je me suis enthousiasmée. Mmh. Mais je pense que j'en attendais beaucoup parce que donc le titre c'est le Conseil Vert, The Green Council, et dans le bouquin, la mort de Viserys et les jours qui suivent et toute cette organisation de la Team Vert autour d'Alicent, elle est hyper dark et hyper longue et du coup j'attendais beaucoup de cet épisode. J'étais là, en plus c'est l'épisode 9, traditionnellement c'est l'épisode où il se passe des dingueries et je pensais vraiment qu'on allait être paradoxalement beaucoup plus mal à l'aise et passer un beaucoup plus mauvais moment, où là c'était un peu un buddy movie avec Eric et Harry et Kristen et Aemon dans les rues de King's Landing,
chapi
et
chapeau,
voilà, tic et tac, tu vois, et j'étais là bon ok, moi je voulais juste des gens dans une pièce qui parlent et qui s'enferment pour parler. Je voulais que la scène du conseil au début avec Harry P. Lord Bisbury ce soit genre 30 minutes de l'épisode et qu'on ait un peu plus d'intensité dans aussi des, il y a tout un thème autour de Viserys normalement qui là est assez vite expédié.
Moi, je pense que cet épisode marque quand même... C'est un sub, ça.
Oui, c'est un sub. Alors,
merci beaucoup,
Le Rodeur, pour ton deuxième mois de sub. Et merci, Sir Hawk, pour le sub.
Merci, Le Rodeur, qui est grave sympa. Je te trouve
grave.
Sympa, Le Rodeur.
Mais
il,
grave.
Il parle
hyper
tout le temps,
fidèle,
il fait tout le temps la pub,
actif,
en plus.
Mais grave, franchement, merci. N'hésitez pas
mais
à faire la pub
toi,
des contenus que vous aimez sur Internet. Ça fait plaisir.
J'ai voulu, je crois qu'à un moment, j'ai voulu follow back le rôdeur, mais il n'avait aucune publication. Je me suis dit,
c'est un lurker, c'est un sous-marin.
Est-ce que je follow quelqu'un qui a rien à me montrer?
Bah, dis-nous le rôdeur, est-ce que tu veux qu'on
juste
te follow?
Par sympathie que je le, mais j'ai envie de le faire par sympathie, mais en même temps, qu'est-ce que ça lui apporte s'il poste rien, tu vois?
Des chiffres. Du ouais, faux, du karma sur internet,
ouais,
tu vois.
Du karma
des
sur
internet points.
Dans quel but, puisqu'il n'y a rien à montrer?
Bah, peut-être un jour, du coup, il lance un projet, il aura déjà tequila texte dans ses followers, tu vois. Il pourrait dire, attendez, je suis pas n'importe qui,
je vais réfléchir. J'étais en train de dire que, ouais, c'est le premier épisode. Qui commence à... Là, il y a une vraie déviation. Jusqu'à maintenant,
bah,
c'était
c'est ça
que...
aussi, c'est celui qui s'éloigne le plus des bouquins, à part peut-être la fausse mort de Lénore.
Ouais, mais
quand
la
même...
fausse mort de Lénore, c'est presque laissé à l'interprétation et presque retconnable. En tout cas, ça
bah,
peut presque
peut dire qu'il est mort
s'inclure
juste
dans
après,
le canon.
Tu vois.
Tu vois.
Oui, mais ça a ouvert quand même des portes où plein de gens étaient là. Donc il va revenir, donc il a un
ouais,
dragon,
ouais,
machin,
ouais, ouais,
qui sont quand même des enjeux pour
ouais,
la suite.
C'est vrai, juste l'histoire du dragon, ouais, notamment. Mais
là, on dévie beaucoup plus du jeu.
Là, on dévie vraiment. Il y a plein de trucs que même Mushroom l'aurait dit, tu vois.
Oui, y a, on passe pas loin.
Même si on avait fait du révisionnisme, ça aurait été annoncé, quoi.
Tu veux dire que la grand-mère Targaryen qui éclate le fausse dragon ouais, en tuant au moins une bonne centaine de King's Landou. Oui, je pense que ça aurait été mentionné dans le livre d'histoire.
Alors, est-ce qu'elle
ce
a tué une centaine de King's Landou?
Ah bah, je pense
ou
qu'elle en a tué bien 30-40.
Ou est-ce que c'est comme Batman? Parce que Batman...
Elle les a juste estropiés à vie.
Batman, il tue personne, il les envoie...
Mais Batman, il est un peu plus précis qu'un dragon parce que...
À l'infirmerie.
Bah, peut-être qu'ils sont tous
quand
à l'infirmerie.
Quand il y a une bombe qui explose, on va à l'infirmerie.
Mm-hmm. Donc voilà, bon, j'ai été un petit poilito déçu par cet épisode, mais on a quand même passé un bon moment et on va parler de tout ce qui se passe, en commençant par donc une très belle scène d'ouverture qui nous rappelle que le roi est mort et qui marque quand même un petit peu le deuil de Viserys qui va être extrêmement vite oublié dans cet épisode, à part Alicent qui est parfois en... qui a quand même deux, trois scènes où elle est, je pense, en deuil et sincèrement, il va lui manquer. Bah, elle a quand même partagé sa vie pendant longtemps. Et surtout, sa mort signifie la fin de l'innocence et clairement la fin de l'abondance, comme on dit, et le début de la guerre. Mais voilà, on prend quand même ce temps dans le château vide.
Toi, t'aurais voulu plus de deuil pour Viserou.
Alors en fait, le truc, bah, du coup, on va l'aborder direct. Une des grosses différences avec le bouquin, c'est que dans le bouquin, cet épisode, il dure une semaine. Il y a une semaine entre la mort de Viserys et le couronnement de Aegon. Et ça veut dire qu'il y a une semaine pendant laquelle Alicent et le Conseil Vert décident de ne dire à personne que Viserys est mort et son corps pourrit dans sa chambre pendant 7 jours jusqu'à ce que ça devienne intenable et que aussi bah, le fait qu'il n'y ait pas de nouvelles du roi commence à inquiéter des gens et qu'ils soient obligés d'annoncer que le roi est mort et que Aegon est couronné. Mais du coup, il y a tout cet aspect hyper morbide, quasiment film d'horreur, de tous ces gens qui laissent le corps de Viserys se déliter au cœur du château avec tout le monde qui est au courant et personne qui peut sortir. Et ça n'aide pas à avoir de la sympathie pour les Verts et pour Alicent. Donc j'étais... Alors, pas forcément déçu qu'ils l'enlèvent, genre pourquoi pas. Et
les Verts, c'est...
C'est l'équipe Alicent.
On parle pas de l'équipe de foot de Saint-Etienne.
Non, ni du parti de feu le parti José Bové. Vous l'avez, les Stéphanois? Vous l'avez? Les Stéphanois se sentent représentés, ils sont ravis. Du coup, voilà, je pense qu'ils ont essayé très rapidement de l'amener avec cette mini-scène où il est en train de se faire embaumer et on voit qu'il est quand même bien verdâtre. Et Alicent, il y a beaucoup d'encens, il y a beaucoup de bougies.
Ouais,
Alicent,
ouais,
elle a un truc sous le
nez. J'ai remarqué l'encens, ouais.
Mais c'est quand même très bref par rapport au bouquin où c'est un vrai sujet, le fait qu'il laisse mourir son corps et que... Il y a un peu un truc de limite, ça va les maudire, tu vois, ils perdent des points de karma. Et du coup, bah, t'as aussi une semaine avant que Aegon il soit couronné, alors que là, ça se passe dans la nuit, ils apprennent que Viserys est mort, et le lendemain matin, il y a une nuit, il y a une journée qui se passe où ils cherchent Aegon, il y a une nuit, et le lendemain, c'est le couronnement. Donc j'étais un peu déçue que ça aille aussi vite, et surtout, j'étais là, en fait, si c'est pour nous mettre 40 minutes de Eric et Arryk King's Landing, voilà,
alors
on
moi,
peut
moi, je te conseille une série télé
choses
qui va un peu plus lentement que House of the Dragon.
Est-ce si qu'elle roulait?
Si House of the Dragon va un peu trop vite pour toi, je comprends. Je te conseille une série télé sur Amazon Prime.
Oui. Adapté d'un chef-d'œuvre de la fantaisie.
Qui s'appelle Masked Singer. Et il faut savoir qui est Sauron.
Ah
c'est
oui,
le but de la série.
On m'a dit des trucs aujourd'hui sur Rings of Power, mais j'essaye de les oublier pour quand je vais regarder. Donc voilà.
Ouais, parce
expédie,
que c'est une expérience tellement hors du commun qu'il faudrait surtout pas qu'on te la gâche.
Je me dis, j'aurais peut-être pas beaucoup d'éléments de kiff, donc
faudrait,
au moins là, tu
ouais,
vois, je
faudrait
trouverais,
surtout pas qu'on te gâche.
Là, je suis en train de perdre du kiff.
Ce bonheur,
des
ouais,
comptos,
ouais.
Mais je vais
kiff
tout binger pour en faire un podcast
ouais,
avec toi.
Tant de kiff.
Alors, Jimmy le mouton demande, Rhaenyra, elle était censée revenir pour épauler Alicent. Est-ce que c'est si loin Dragonstone, donc père dragon, à d'autres dragons? En fait, elle est rentrée, je pense, en bateau. Elle était venue en bateau. Et elle est rentrée en bateau à Dragonstone. Elle a amené ses enfants et elle a dit à Alicent, je reviens très vite à d'autres dragons. Mais déjà, elle est pas obligée de revenir genre dans la nuit. Et elle sait pas que Viserys est mort. Viserys est vraiment mort la nuit, a priori, où il a vu toute sa petite famille heureuse avant que ça parte en sucette. Donc on est très très près de l'épisode précédent. Pour une fois, il y a pas de time jump et Rhaenyra n'a pas. Alors on verra dans l'épisode précédent probablement ce qu'ont fait Rhaenyra et Daemon pendant ce temps et leur famille, mais elle a pas l'info qu'il faut revenir de toute urgence
du bateau. A priori, non.
Bon, oui, ils ont fait du bateau pour rentrer, quoi. Je sais pas, je dirais que c'est deux jours bateau, même
jours.
Pour rentrer.
Donc c'est deux jours, quoi.
Du coup, ils ont vraiment pas les bails de qu'est-ce qui se passe à King's Landing. Il faut qu'on revienne très très vite.
A priori, c'est Rhaenys qui va leur apprendre.
Je pense que c'est bien pour ça que, enfin, c'est le rôle que Rhaenys va jouer, c'est
à
de
moins
leur donner
qu'un
les bails.
Corbeau aille plus vite qu'un.
Je pense qu'il va très vite ce dragon. Et surtout, pour l'instant, on n'a pas vu grand monde qui aurait envoyé ce corbeau. Donc, on a quand même, voilà, cette petite scène qui nous rappelle que le roi est mort. Et après, ça part direct sur les naninanas et les intrigues, puisqu'on commence avec.
Oh,
le lion est mort ce soir. C'est pas vraiment un Lannister, mais c'est pas grave, ça marche quand même. On commence direct avec de l'espionnage avec Talia, la servante d'Alicent, qui se fait chuchoter. Alors. Vraiment, j'étais là. Pourquoi vous avez mis
la femme du showrunner?
La femme du showrunner aussi. J'étais là. Pourquoi vous avez mis un petit enfant blond si c'est pas un Targaryen? Vraiment, j'ai vu ce petit enfant blond au début qui courait dans les couloirs et j'étais là. C'est lequel? C'est qui?
On a compris que quand il voulait signifier Targaryen, il le faisait pas blond. Il le faisait méga blond.
Ouais, non,
blond.
Mais d'accord, mais mettez un roux, mettez un brun, je sais pas, tu vois. J'étais vraiment en mode, c'est juste pour confuser les gens à ce niveau-là. Mais d'accord. Limite, il s'appelle Aegon, tu vois, le gamin. Mais c'est pas un Targaryen, c'est une coïncidence. C'est en l'honneur du roi, t'es là.
Moi, j'ai pas été confusé, hein.
Regarde, les gens ils disent pareil, le petit garçon blond, je pensais que c'était un gamin de Aegon, qui effectivement a deux gamins qu'on rencontre dans cet épisode très brièvement, mais non, a priori c'est juste un petit gamin qui bosse au château et qui est le premier à avoir l'info que Viserys est mort, alors comment, pourquoi, on ne sait pas, et qui se précipite pour informer non pas quelqu'un de haut placé, mais Talia.
Important les gamins d'Aegon, hein.
De quoi?
Important les gamins d'Aegon.
Les gamins
ils sont importants, les gamins de Aegon.
Oui, 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 tout à fait. Aegon a deux enfants qu'on a vus, mais on en parlera, on les a vus rapidement. C'est un jumeau, enfin, c'est deux jumeaux, un garçon et une fille. Et il a un bâtard qu'on a croisé aussi dans un coin moins fréquentable de King's Landing dans cet épisode.
Il n'a pas un autre enfant?
Non, c'est Alicent qui a un enfant en plus. Pour l'instant, Aegon n'a que deux enfants qu'on a vus. Et un bâtard. Deux enfants, les jumeaux et un bâtard.
Okay.
Bref, on va en parler. On va faire un petit point qui a quels enfants.
D'accord.
Et du coup, c'est l'occasion pour Talia d'informer Alicent que le roi est mort et pour toute cette machination de se mettre en place. Qu'est-ce qu'on dit de ce début d'épisode qui commence direct sur le roi est mort?
Qu'est-ce
qu'on fait?
Le début de l'épisode, je le trouve trop bien.
Ouais.
On voit tout le château vide. C'est incroyable, c'est trop beau. On se dit, putain, ils sont tous en train de dormir. Le daron, il est mort.
Quoi,
il peut se passer n'importe quoi. Un enfant descend les escaliers. En fait, c'est comme genre quand tu vois le boulanger qui prépare le truc pendant la nuit avant que la ville se réveille, tu
vois.
Genre les gens.
Il est 5 heures qui
vraiment genre le délire, genre t'immerger comme ça dans la vie de château de du Red Keep.
Oui, on voit des servantes qui passent, etc.
Je trouve ça trop bien.
Elles ont préparé la matinée des lords.
J'ai trop kiffé. J'ai kiffé.
J'ai beaucoup aimé. Franchement, l'ambiance,
j'ai trouvé que c'était un mood setter mortel. Et le gamin qui est un peu genre. Pas du tout phased, tu vois, pas du tout, pas du tout dérangé
il est
parce qu'il sait,
il est
tu vois.
Moi, je taffe,
il parle à Talia, il lui dit, donne l'information, et il se casse, tu vois.
Et c'est là que Talia informe aussi Misaria, puisqu'on la voit, alors je sais pas si elles ont un code pour dire le roi est mort, mais je pense qu'elles ont
la bougie là.
Ouais. Elle allume une bougie de façon un peu spécifique à la fenêtre. J'imagine que vu que Viserys tenait sur environ 2 phalanges, elles ont dû se dire, bon, quand il décède, ce qui va arriver bientôt,
tu mets la bougie, n'oublie pas.
Donc quand bien même Alicent lui a dit, personne ne doit. Attention, elle est là. Merde, à gauche ou à droite? Merde. Ma gauche ou sa gauche? Je sais pas. De son côté, c'est la gauche. Et du coup, l'info circule immédiatement. Ce qui est, il y a quand même toute une thématique un peu espionnage dans cet épisode, puisque c'est un épisode très intrigue politique pendant un bon moment. Et on commence à se rendre compte d'à quel point il y a des rats dans les murs au Donjon Rouge. Et il n'y a pas grand-chose qui reste secret, ce qui va forcément jouer un grand rôle dans la guerre de succession qui s'annonce. Parce que l'information, c'est le pouvoir, après tout. Et on voit que Alicent perd du pouvoir immédiatement. Elle est là, la cam. J'espère que ce sera la miniature de cette vidéo. C'est moi qui choisis. C'est le conseil vert, c'est le Green Council. J'ai fait un petit point sur qui est dans la pièce, parce que y en a où même moi j'ai dû googler, j'étais là, c'est qui, genre le brun un peu bouclé, tu sais, qui est habillé en noir et qui a une chaîne avec des maillons un peu carrés, j'étais là, mais tu es qui, toi? Du coup, voilà, je vous ai fait un point. On a Tyland Lannister, lui, je pense que vous voyez qui c'est celui qui a un jumeau, qui se la raconte un peu, qui est assis en face d'Alicent et qui...
draguait Rhaenyra dans un des premiers épisodes,
c'est son jumeau qui draguait Rhaenyra, mais qui était un peu moins... c'est Jason, le Lord of Castle Rock. Lui, c'est son jumeau.
C'est le même acteur, ça va, c'est littéralement pas des jumeaux.
C'est le même gars. Il y a que Eric et Eric qui sont joués par des vrais jumeaux. Eric et Eric qui ont shine à cet épisode, on va faire un point sur qui sont-ils. Donc Tyland Lannister, il est pour l'instant Master of Ships, grand amiral, donc il gère tout ce qui est maritime, après le départ, souvenez-vous, de Corlys Velaryon il y a bien longtemps. Il y a bien sûr Otto Hightower, père d'Alicent, la reine et main du roi, lui je pense que vous voyez qui c'est. Alors il y a Lyman Bisbury, c'est le vieux monsieur qui ne va pas durer très longtemps et qui est grand argentier, donc lui il gère la thune. Il y a le Grand Maester Orwyle, qui est un plus jeune maître qu'on a vu d'habitude et qui est notamment celui qui a permis à Viserys de tenir très longtemps sur la réserve. Le mec où je savais pas qui c'était, du coup, il s'appelle Lord Jasper Wilde et c'est le Master of Laws. Donc en gros, il gère tout ce qui est code civil et justice et c'est le rôle qu'avait Lionel Strong avant de devenir main du roi, pour info. Et on a, en termes de garde, Criston Cole et Harold Westerling. Donc Criston Cole, c'est le garde de la reine, et Harold Westerling, c'est le chef de la Kingsguard, c'est le commandant de la Kingsguard, donc c'est le chef de Criston Cole. Et il le méprise, clairement. Donc voilà qui y a dans ce conseil vert.
Ils peuvent pas se blairer, ouais, en même temps.
Bah, en même temps, c'est depuis que Criston Cole a éclaté Geoffrey à main nue au mariage que Harold Westerling, il est là... Ah, vraiment, genre, il le regarde genre une merde sous une chaussure, quoi. C'est mérité. Criston Cole est de plus en plus détestable. J'adore voir ça. Donc voilà qui y a dans la pièce. Et bah à part deux personnes, tous ces gens sont team vert. Il y a des gens qui m'ont demandé pourquoi tout le monde est aussi team Alicent. Et en fait, bah je pense que la réponse c'est parce que c'est les Hightower qui dirigent depuis longtemps, quoi.
Ouais, dans les fameux time jump, pendant les fameux time jump, les précautions nécessaires ont été prises pour que le complot fomenté.
Tout à fait. Mais et le vocabulaire.
Fomenté par Otto Hightower puisse mettre en place, puisse être sécurisé, on va dire, puisse voilà, on place nos pions, donc on met les bonnes personnes au pouvoir, donc on s'entoure des bonnes personnes autant que possible. Donc on s'assure que
aller dans nos sens,
on s'assure qu'au Small Council, dans le dos de Viserys, mais aussi dans le dos d'Alicent, a priori.
Oui, elle n'était pas au courant de tous les bails, et notamment du fait qu'il y avait un vrai plan en cours depuis visiblement longtemps, des années potentiellement, pour renverser Rhaenyra et mettre Aegon sur le trône immédiatement à la mort de Viserys.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que peu importe que Viserys ait dit ou pas à Alicent cette histoire de Aegon, il faut laisser Aegon sur le trône, qui était une erreur, a priori.
Il y aurait eu ce plan dans
qu'elle l'ait bien compris, mal compris, ou qu'elle lui ait pas dit du tout, de toute manière, Otto Hightower, au moment où Viserys allait mourir, il allait enclencher son plan, quoi qu'il arrive.
Après, ça fait une différence dans comment on perçoit Alicent, du coup, qui dans le bouquin est beaucoup plus volontaire et beaucoup plus... Vraiment, dans le bouquin, elle s'en bat la race de Rhaenyra.
Elle est méchante.
Pas.
Dans le bouquin, elle est méchante. Déjà, elle a jamais été amie d'enfance avec...
Elle a 10 piges de plus.
Avec Rhaenyra.
Elles sont pas potes. Est tellement persuadée que Rhaenyra va buter ses camins qu'elle est vraiment en mode all-in. Et surtout depuis que Aemon s'est fait crever un œil, elle a pas le time et elle est pas du tout... Là, on a une Alicent dans cet épisode qui...
Mais je trouve ça intéressant.
Se bat contre le fait d'assassiner Rhaenyra. Dans le bouquin, très peu. Et surtout, dans le bouquin, elle est complètement OK avec le fait de renverser, de laisser pourrir Viserys pendant une semaine et de couronner Aegon en secret. Et elle fait vraiment durer la semaine le plus longtemps possible, quoi. Parce qu'elle sait que dès que Rhaenyra, elle aura l'info, ça va partir en couille. Et elle essaye de sécuriser le plus de lord, d'argent. Il y a tout un truc où il déplace une partie de la thune. Donc il y a de la thune de la couronne qui est perdue, enfin, qui est inaccessible. Même si Rhaenyra, elle arrivait, bah, en fait, elle l'aurait pas. C'est vraiment, genre, House of Cards, quoi. Mais là, elle est beaucoup plus, genre, sous le choc de la mort de Viserys et sous le choc de quoi? Quoi? Vous avez manigancé dans mon dos? Je suis là. My girl, c'était quoi son plan, du coup, à elle?
Non, mais en fait, Ouais, son plan, c'était...
Ça ah, si, on être, va l'apprendre, son
en
plan.
En fait,
son,
s'il n'y avait pas eu Viserys qui lui aurait chuchoté à l'oreille Aegon sur le trône, elle aurait dit, non, bah, on met Rhaenyra, c'est le souhait de mon mari.
Alors, c'est vrai que ça. Sur la fin, juste avant que Viserys décède, elle a dit à Rhaenyra, tu feras une bonne reine. Et il y avait une tentative de réconciliation. Et exactement. Sinon, son plan...
Exactement. Et moi, je trouve que c'est intéressant que la série, elle, dans cette direction-là, parce que sinon, les Verts sont 100% les méchants de la série.
C'est ça, et du coup, c'est pas très intéressant.
Et du
quoi.
Coup, là, ça rajoute un petit peu un truc de pour qui tu es, contre qui tu es, tu vois.
Oui, et on va voir de quoi chacune est capable, et aussi comment exactement. Chacune peut être influencée par notamment des hommes qui l'entourent. Quoi.
Exactement, donc ça humanise un tout petit peu Alicent.
Oui, c'est plus intriguant.
Quand la température va monter et que chacun va se faire des coups de pute et qu'au bout d'un moment, il va y arriver des malheurs à la team verte, les gens seront un petit peu genre, on souffre un peu quand même.
Ouais, ça va piquer, ça va picoter. Peu importe votre team, ça va picoter.
Ouais.
Ce qui est peut-être la preuve d'une bonne série, quoi.
Exactement. Et c'est pour ça que c'est cool. Et franchement, ouais, c'est cool, c'est bien, tu vois. Pareil, c'est un monstre, Aegon, et un violeur horrible, etc. Oui. Mais tu vois, il l'humanise un petit peu. Ils arrivent à te faire dire, bon, peut-être que...
Il a au moins conscience du fait qu'il est pas du tout fait pour ça, quoi.
Peut-être que pas mal de morts seraient évitées si on le laissait se barrer, s'exiler tout seul à l'autre bout du monde et...
Ah, mais je pense que ce que cette série dit, c'est que la monarchie, c'est complètement con. Faut arrêter d'obliger à gouverner des gens qui veulent pas gouverner, quoi. C'est comme mettre des gens managers quand ils veulent pas être managers. Ça fait pas des bons managers après. Ça fait des gens qui font pas de réunions et qui font pas descendre les infos.
Dis donc, quelqu'un a mal vécu quelque chose, là.
Parfois, faut que ça se
calme, toi, Mimi. Okay.
C'est compliqué, le monde du salarié, d'accord.
Ça va aller, tu veux qu'on en parle, ça va aller.
Non, ça va. Alright. Juste avant qu'on arrive à Kristen Cole et son petit coup de sang, là. Juste pour vous dire ce dont il parle dans ce conseil, une fois que Alicent elle a compris que, alors parce que Tyland Lannister est un gros deb, et c'est, il dit vraiment, ah, notre plan de longue date va pouvoir entrer en action. Et Otto il est vraiment en mode, mec, peut-être dis pas devant elle qu'on a un plan de longue date dont on lui a pas parlé, tu vois. Mais ok, donc elle se rend compte. En fait, c'est un épisode où, dites-vous que l'arc d'Alicent, c'est qu'elle se rend compte à quel point elle sert à rien, et maintenant que son mari est mort, tout va être transvasé sur son fils, et du coup, plus personne a besoin d'elle. Et donc, tous les hommes qui travaillent avec elle depuis des années, ils vont la mettre 100% de côté parce que maintenant, ils ont Aegon. Et c'est pour ça aussi qu'elle est fébrile dans cet épisode, et c'est pour ça qu'elle a ce super échange avec Rhaenys sur le patriarcat, finalement. Mais du coup, c'est ça l'énergie dans laquelle elle est, Alicent, et quand elle se rend compte qu'il y a ce complot pour... dans son dos pour renverser Rhaenyra, elle est pas hyper ravie. Et la discussion à ce moment-là, c'est qu'il faut rallier les bannières. Donc ils disent, il faut qu'on contacte tel et tel lord, notamment les lords très riches comment ils s'appellent, les Tyrell, qui ont beaucoup de terres. C'est Marguerite Tyrell, etc. Olenna Tyrell, vous voyez dans Game of Thrones. Donc ils parlent de leurs alliés, les fleurs. Les BG, là. Ils parlent de leurs alliés qu'il faut prévenir. Et d'ailleurs, on voit après Otto qui est en train de rouler un parchemin pour l'envoyer avec un corbeau, c'est probablement ça. Et de sécuriser l'or de la couronne, parce qu'ils savent que l'argent, ça va être le nerf de la guerre, comme d'habitude. Ça et les dragons, ça marche bien. Ça, c'est la discussion. Jusqu'à ce que Monsieur Bisbury, qui est pas né de la dernière pluie, soit là. Mais attends, mais on est où, là? Qu'est-ce qui se passe? Et là, ça part en couille.
Worcester's berries, Plugsbury, Bigsbury.
Lord Bisbury,
Lord Worcester's
meurt de sa belle mort.
Lord Bisbury. Worcester's.
Ouais, il trébuche dans l'escalier, il se cogne dans la douche, il avale de travers. Enfin, en tout cas, c'est la fin d'une belle aventure pour lui. Il meurt au travail, quelle détresse.
Ouais.
Et alors.
Donc est-ce il se fait que... un petit peu, voilà, il se fait rasseoir sur sa chaise violemment par
voilà,
Kristen Cole.
Il s'est redressé, il a mis tout le monde mal à l'aise, il a haussé le ton, il était menaçant,
envers
un agent assermenté, refus d'obtempérer, et Kristen Cole ayant très peu de patience et visiblement ne maîtrisant pas sa force,
il l'a
éclaté sur sa petite boule en marbre là.
Puis encore diablement. Bien cordialement.
L'individu a refusé
Kristen Cole. Bien cordialement.
All Kristen are bastards. Est-ce que tu te souviens de comment il meurt?
Est-ce que tu connais un autre Kristen qui est un bâtard?
Je connais pas d'autres Kristen parce que personne s'appelle Kristen en vrai dans la vraie vie. Est-ce que tu te souviens comment il meurt Bisbury dans le livre et est-ce que tu, du coup, tu vois les différences avec cette
scène? Moi, je me souviens pas de
Lord Bisbury. Bah, c'est un moment quand même assez important parce que c'est le premier sang vraiment versé dans la guerre, dans la danse des dragons. C'est ce gars-là qui est chez les Verts sans se rendre compte qu'il est chez les Verts et qui dit que lui, il est Team Rhaenyra et qui se fait immédiatement buter. Et c'est le moment où, ok, ça devient réel. On n'est pas en train de parler politique, on est en train de faire un coup d'État. Mmh. Et il y a trois versions différentes dans le bouquin de comment il est mort. Il y en a deux où c'est Criston Cole et un où il a été, donc deux où, il y en a une où Criston Cole l'a égorgé. Il y en a une où Criston Cole l'a, je crois, jeté par la fenêtre. Et il y en a une où il a été mis au cachot et il a fini par y mourir de maladie. Coucou Doudou dans le chat, je te vois. Du coup, là, c'est Criston Cole qui le tue, mais c'est un peu accidentel. Comme tu dis, il y a un peu un côté, il l'a pas fait exprès, il l'a rassis fort. Et je sais pas s'il était parti pour le buter, tu vois. Je suis pas sûre, mais on a déjà vu qu'il est capable de tuer un homme à main nue parce que juste il est fâché. Et là, quand Criston est fâché, Criston fait ça, quoi.
Criston est vraiment Néandertalman, quoi.
Ouais, vraiment, il est
quelqu'un
con,
posé dans les questions, quelqu'un a employé le mot patriarcal.
Oui, patriarcal, tout à fait. Quelqu'un a lâché ça sur mon Instagram.
Parce qu'il
n'y
a pas de répercussion. C'est la deuxième personne qui tue au milieu de tout le monde sans qu'il y ait de... Et tout le monde trouve ça OK.
Oui, limite, il est applaudi, voire promu pour ça. Hein. Ouais. Donc, parce que là, il est promu. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé tout à l'heure dans le chat. Donc, juste après ça, ils discutent leur plan qui est littéralement de faire assassiner...
J'aime bien aujourd'hui parce qu'on voit bien le chat.
Oui, on a mis un nouveau setup. Je sais pas si vous remarquez que l'image est plus jolie que d'habitude. Du coup, Tequila Tex a le chat sous le nez, ce qui est en plus plus cool que le regarder sur téléphone. Je peux zoomer encore un coup si tu veux. Hein.
Ouais.
Allez. Hop.
Puis tu peux mettre la luminosité plus.
Hop. Hop.
Merci.
Hop. 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 On est bien.
Jimmy le mouton. Mais en fait, Christophe, il tue.
Donc, ils discutent du fait que leur plan, c'est littéralement d'envoyer des assassins à Dragonstone pour buter Rhaenyra et sa famille pendant qu'ils dorment. Et ils discutent du fait qu'une de leurs plus grandes menaces, c'est Daemon, qui est, comme on le sait, très très bagarre. Donc, c'est vraiment genre, ça y est, quoi. On va buter l'héritière du trône, on va buter la princesse, on va buter l'ancienne amie de la reine. C'est parti. Et à partir du moment où le sang a coulé, on met tout ça, on enclenche la quatrième. Là, je sais pas mon permis. Bref, on appuie sur l'accélérateur et on y va. Et c'est là où Harold Westerling, il dit eh oh.
On enclenche la quatrième.
Je sais pas, on passe la seconde. Il part tellement vite en quatrième, regarde Opal qui dit que j'ai raison. Voilà, peut-être Opal a fait le GP Explorer tellement cette personne est douée en voiture, tu sais pas. Il y a aussi le fait qu'ils emprisonnent les dragons. Oui, ils veulent emprisonner parce que du coup, ils veulent aussi. Alors, si je dis pas de conneries. En fait, l'idée, c'est de frapper en stealthy, pendant la nuit, quoi, en discrétion, de faire des assassinats discrets. Et comme ça, après, l'ennemi n'a pas des armes nucléaires, puisque l'ennemi est mort sans que son arme nucléaire s'en rende compte. Et ils enferment, donc ils ont Rhaenys, par contre, chez eux. Rhaenys, la grand-mère Targaryen, The Queen That Never Was, tout ça, qui, elle, est chez eux avec son dragon, comme on va le voir à la fin de l'épisode. Et évidemment, ils l'enferment en prenant soin qu'elle ne puisse pas du tout aller à Fosse Dragon, au Dragon Pit. Parce que du coup, c'est plutôt dangereux, quoi. On n'a pas envie. Ils emprisonnent les gens aussi. Comment ça, ils emprisonnent ? Bah alors, ils emprisonnent les gens dans le Red Keep, dans le bouquin aussi. Et l'idée, c'est que personne ne sort et tout le monde est là avec le corps de Viserys pendant une semaine. C'est vraiment un long moment de vie. Donc Westerling se tire et quelqu'un dans le chat demandait est-ce qu'il va se faire tuer ?
En disant, il abandonne pas son poste complètement. Il dit. Ben moi, je suis là pour servir le roi. S'il n'y a pas de roi, j'ai rien à foutre là. Je reviendrai quand il y aura un roi.
Donc en fait, il trouve la faille la procédure qui lui permet effectivement, a priori, sauf surprise dans le prochain épisode, de ne pas être sanctionné. Et aussi, il y a un vrai truc de Lord Bisbury qui est pas d'accord. C'est un vieux gars de 96 ans. Harold Westerling qui est pas d'accord. Quand t'as que Criston Cole dans ta team, t'es là, il est quand même très fort à Harold Westerling, donc on va peut-être pas le contrarier, on va le laisser
Criston
partir.
Cole dans ma team.
Par contre, j'espère qu'ils avaient bien bouclé le château, parce que lui, clairement, en fait, lui, il a été protecteur de Rhaenyra quand elle était petite, c'était son protecteur dédié avant Criston Cole, souvenez-vous, avant qu'il devienne Lord Commandant de la Kingsguard. Donc, Lord Co-City de la Kingsguard, qui crie et tout. Donc, il a beaucoup d'affection pour elle, et alors, la prévenir serait une trahison.
Y a pas une Jane Westerling dans Game of Thrones?
Tout à fait. Y a Jane Westerling.
Je me permets?
Oui.
C'est qui, déjà?
Alors, il me semble, que je la compte pas avec Jane Poole. Je crois que c'est malheureusement celle qui remplace, entre guillemets, celle qu'ils ont remplacée par Sansa et qui, ah, se, qui est potentiellement violée par Littlefinger, mais par Ramsay, mais je suis pas sûre. Dites-nous. Ah oui, non, pardon, rien à voir. C'est la femme que Rob épouse. Ah oui, dans le dans la série, elle s'appelle Talisa. C'est pour ça que je t'ai perdu.
Ah ouais.
C'est elle que Rob Stark épouse alors qu'il devrait pas, ouais, et qui fait que il se fait buter au Red Wedding parce qu'il était censé se marier avec une des filles frais.
Jane, J-E-Y-N-E Westerling.
Tout à fait. Oui, parce que pourquoi écrire les prénoms de la bonne façon.
Ouais.
Du coup, c'est le dernier élément important de ce.
C'est une façon eurocentrée d'écrire les prénoms que tu as.
Oui, bah alors lui, il a une façon très genre latine centrée d'écrire les prénoms avec des AE partout. Franchement, Jaerys et Jaera, j'ai envie de crever, on n'en peut plus. Rhaena et Rhaenys, c'est tout stop.
Ah, tu veux dire stop. Latin, le vieux langage, quoi.
Oui, oui, vraiment le latin.
La langue morte,
va, Rosam, Rosaum. J'ai fait latin. J'ai fait 3 ans de latin.
Grammatique qui retente.
Attends, on revient sur le Green Council. C'est le dernier truc notable de ce Green Council, je pense. C'est la mise en RTT provisoire de Harold Westerling. Qu'est-ce que t'en as passé, pensé, toi, de ce conseil vert? T'étais pas déçu? Moi, j'étais déçu.
Non, moi, je voulais qu'il passe le plus vite possible.
Ah ouais?
Ouais,
là,
moi,
on
j'étais
arrête
genre.
De parler, on va faire des trucs.
En vrai, non, mais en vrai, genre, cet épisode, j'étais genre, ben, on comprend tout de suite que ça va être l'épisode de l'aftermath de la mort de En fait, moi, je cherche à être surpris par cette série.
Okay.
Je cherche à être surpris. Je cherche à ce qu'il se passe des trucs qu'on nous avait pas dit dans les bouquins. Donc, j'étais genre, bon, de toute façon, on va être bien obligé de voir l'aftermath de la mort de Viserys et le couronnement d'Aegon. Donc, voilà, c'est un moment à passer qui va être un peu genre... c'est un peu de la paperasse, quoi. C'est un petit peu genre procédurier, tu vois. Genre...
Oui, parce que nous, on sait qu'il y a un moment où Aegon, il est couronné. Après, voilà. Les gens, ils peuvent se dire... Tu vois, pendant tout l'épisode,
exactement,
tant qu'on n'a pas mis la couronne sur son crâne, Rhaenyra, elle peut arriver à tout
ouais,
moment
ouais,
sur
ouais,
son dragon.
Ouais,
tu vois,
ouais.
Il peut y avoir des... Et au final, on a quand même un plot twist à la fin.
Ouais. Après, donc, je me suis dit, bon, voilà, il faut le faire, il faut le faire. Donc, jusqu'où ils vont aller dans la cruauté pour bien asseoir le côté, genre, on est en guerre civile. Bon, ben, il bute le mec dans le Small Council. À un moment, le gars qui disait à Rhaenyra, ma princesse, je suis prêt à tout pour
c'est
vous.
C'est le chauve qui est pendu, là, qui essaye de se barrer.
Je suis à votre service. Misérable insecte.
C'est exactement ce
et donc lui il se fait donc il y a un moment il essaye de sortir, il le chope juste avant qu'il sorte et ils lui disent parce que il fait semblant de dire ouais je bende Denis, vous inquiétez pas, je bende Denis,
ouais.
Denis Villeneuve et après il le chope avant qu'il parte.
Ouais,
et
mais vraiment juste avant, il est pas loin, il voit la porte qui s'ouvre, il est là go et non.
Et il le pend pour montrer l'exemple.
Oui.
Tu vois, genre, et il le laisse pendre, et les gens vont au boulot, et ils voient, ah
non,
oui, c'est vrai qu'il y a ce mec qui est mort,
en plus,
ouais.
Je sais pas, genre,
donc,
ça pourrit.
Donc,
ça
du coup, j'y
peu.
Pense, faudrait peut-être ouais. pas que je trahisse Alicent.
Peut-être je vais pas déserter ce coup-ci. Ouais, peut-être que j'adore.
Ah oui, c'est vrai, parce qu'il y a lui, là. Et ah ouais.
Et
ouais. Non, parce que j'allais partir faire une course, mais maintenant que j'ai vu ce mec pendu.
Je vais me faire livrer.
En fait, je vais prendre un Deliveroo. Et donc voilà.
Ok, donc toi, bon, ben moi, j'aime bien.
Non, moi, j'avais envie que ça. Ça soit évacué
ça pulse.
pour qu'on puisse
chercher Aegon
pour qu'on puisse voir des dragons, de la magie, des trucs du lore, des trucs qui me
toi,
font
toi t'attends Alice Rivers.
Ouais,
il y a quelqu'un
Alice
sur
Rivers.
Le chat qui a dit t'es qu'il attend Alice
mais,
Rivers
mais c'est
on
vrai
tous et toutes
c'est
Alice
vrai.
Rivers
depuis
et
que tu m'en as parlé
Mélisandre peut-être que c'est la même personne, on ne sait pas, on vous en a parlé dans un précédent podcast
je pense qu'on vous en reparlera à la fin de ce podcast.
Oui, il y a moyen parce qu'on n'a pas beaucoup de points homme poisson en ce moment, donc on peut faire des points magie en général, tu vois, et on est ravis. Salut Kerazan, welcome aux nouveaux et aux nouvelles du chat, welcome dans ce débrief. Petit point, Elena et The Beast Between the Boards et les enfants de Aegon et Elena, puisque Alicent va apprendre à Elena que one, ton daron est mort, et deux, du coup ton mari, slash frère, slash un peu violeur conjugal quand même, et père de tes enfants qui te négligent, va devenir roi et tu vas être reine. Hey oh, c'est mardi. Elena, elle est là, elle se tourne vers elle et elle lui gueule exactement ce qu'elle a dit dans l'épisode précédent, à savoir beware the beast beneath the boards, méfiez-vous de la bête sous les planches.
Donc là, est-ce qu'elle parle de ce truc qu'on va pas spoiler,
de Blood and Cheese, dont on vous dit juste ça, ne googlez pas, mais comme ça, si vous avez lu le livre, vous savez de quoi on parle, de Blood and Cheese.
Est-ce qu'elle parle de ça ou est-ce qu'elle parle de du dragon de Meleis?
Oui, Meleis, tout à fait. Et moi-même, on m'a dit peut-être, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, est-ce qu'elle fait référence à Aegon qui trouve, tu sais, dans un cachet, sous une table dans le septuaire. Donc Aegon dans cet épisode Harry et Eric le trouvent sous une table et que c'est un peu The Beast, c'est référence à ça va pas être un bon roi. En vrai, c'est une prophétie, c'est vague, c'est une dreamer. Pour l'instant, on sait pas. Moi, je reste sur, elle fait référence à Blood and Cheese. Vous savez pas de quoi
moi, ce serait fabuleux que quelqu'un lui dise, ce serait fabuleux que dans un épisode, que dans un prochain épisode, sa mère lui dise, bon, on a donc là, tu dis des trucs qui se réalisent. T'as dit la Beast Between the Boards. Et elle s'est et ça s'est manifesté par Rhaenys qui mm-hmm. qui par le dragon de Rhaenys qui sort du plancher.
Oui.
Est-ce que c'était bien de ça dont tu parlais?
Mais c'est pas vraiment des bords.
Ouais
c'est
ouais
pas
ouais
des
ouais.
Planches,
d'accord. Mais imagine elle lui dit ça.
Genre elle confronte.
Et l'autre elle lui dit non the beast is still between the boards ou un truc comme ça.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Genre ça.
Mais c'est
ouf.
Limite horreur tu vois. Ça j'aimerais bien. C'est hyper spooky tu vois.
Genre,
t'es là,
ah on pensait que la truc elle voulait. Tu vois moi ce qui est intéressant si tu décides de jouer avec les prophéties.
C'est que les gens les
interprètent mal aussi.
Oui.
Et se plantent. Comme Mélissandre s'est plantée avec Stannis.
Là maintenant Alicent elle est dans un rite de prophétie puisque Viserys sur son lit de mort lui a parlé de la prophétie et tout. Peut-être qu'elle va écouter un peu plus sa fille.
Ouais.
Peut-être qu'elle va s'intéresser à ces histoires de dreamer, de rêves prophétiques. On ne sait pas. À voir. Mais du coup voilà, Elena répète ça. Ça fait peut-être référence au gros dragon.
You
qui
might
éclate,
say I'm a dreamer.
Je déteste cette
chose. But I'm not the only one.
Et l'autre élément.
Come on, Mimi, sing with me.
On est où là? On est confinement 1 avec Gal Gadot.
Gal Gadot.
Et Ryan Reynolds. Si vous n'avez pas cette référence, googlez Gal Gadot, Ryan Reynolds, imagine. Je suis pas sûre. Non, il y avait pas Ryan Reynolds, je pense. Mais il y avait genre The Rock ou je sais pas quoi. Bref. L'autre point
Est-ce
important.
Est-ce que tu vas aller voir Black Adam?
Absolument pas. Oula. Non.
Ça a l'air
très peu. Ça n'a pas l'air très
pété.
Bien. Ouais, ça a l'air un peu éclaté.
Pété.
J'ai un pote qui m'a raconté tout She-Hulk aujourd'hui. J'étais là, je suis ravie de pas regarder ça. Mais
moi, je l'ai regardé. J'ai trouvé ça ok.
Mais c'est ce que tu m'as dit. Ça avait l'air ok. J'étais là, je n'ai pas le temps pour ok. Je suis là pour le fétichisme des pieds et l'inceste. Du coup, je suis ravie. L'autre point important de cette petite scène avec Elena, c'est qu'on voit pour la première fois les enfants qu'elle a eu avec Aegon, qu'elle a vaguement mentionné dans l'épisode précédent, mais vraiment très peu. Et donc, ils ont, pour l'instant, des jumeaux qui sont assez petits, doivent avoir genre 2-3 ans. 3-4 ans, je sais pas trop quel âge.
Est-ce qu'on peut faire muter si vous voulez pas être spoilé 2 secondes?
Attends, non, tu veux dire quoi?
Non, mais...
Ok, non, je vais couper.
Non, juste en bas le micro.
Voilà, c'est bon. C'était à propos de quelque chose.
It was very à propos.
Les naninana là. Voilà, on arrête. On ne vous spoile pas. Donc, ils ont 2 jumeaux ensemble qui sont un garçon et une fille, qui s'appellent Jaehaerys et Jaehaera, en l'honneur du roi précédent Viserys.
Rick et Morty. Voilà.
Vous le savez, on s'en fout, c'est une nounou qui s'en occupe, mais c'est bien de traquer un petit peu qu'il y a des gamins parce que c'est quand même une histoire de succession et de lignée et de gamins. Et du coup, ça veut dire que quand Aemond dit à Criston Cole I'm next in line, donc je suis le prochain sur la liste pour le trône, le prochain héritier du trône si Aegon est mort ou n'est pas là, bah c'est pas vrai parce que Aegon il a un fils. Donc Aemond il est complètement dans sa propre vie aussi, où il est hyper intense Targaryen, il a décidé qu'il méritait d'être roi, mais il est pas du tout selon les lois de succession de Westeros. C'est d'abord les fils qui sont primordiaux par rapport aux petits frères, source par exemple Daemon Targaryen. Du coup, si Aegon meurt demain, c'est pas Aemond, c'est le Born là qui va être roi, c'est son fils qui s'appelle Jaehaerys, qui pour l'instant a 3 ans certes, mais du coup ça va être gouverné par une régence en attendant qu'il soit du bon âge. C'est pas on met le frère. Donc Aemond, ouais, il est intense, il a bien craqué, et en même temps ça illustre à quel point tous ces gens n'utilisent la tradition et la filiation du pouvoir que comme une excuse. C'est vraiment une lutte de qui veut le plus le pouvoir et qui est le prêt à faire le plus de dingueries pour l'avoir. Et tout le monde s'en fout un peu des règles au final, tu vois. Mmh. Rhaenyra, elle veut casser le système patriarcal. Alors en soi, bien sûr, je suis d'accord, mais du coup, elle est là. Je m'en fous des règles, je veux qu'on fasse différemment. Alicent, elle fait genre, elle veut qu'on fasse comme d'habitude, mais en fait non, parce qu'elle réfute la... Enfin, elle pense qu'elle suit la volonté de Viserys, mais à la base, bisbof quand même. Aemond, il veut juste être roi parce qu'il veut être roi et que c'est le meilleur Targaryen par rapport à son frère. Enfin, on n'est pas sur des gens qui méritent grand chose, et c'est aussi le propos de l'univers de Westeros, c'est que le pouvoir
de George R. R. Martin en général, ouais.
Oui, on n'est pas sur une sur des univers très pro monarchie, on va dire quoi. Ensuite, c'est le moment d'arriver à finalement ce qui va marquer le l'arc narratif d'une bonne partie de cet épisode, qui est que Otto et Alicent cherchent Aegon chacun de leur côté avec une équipe différente.
Il y a déjà deux teams au sein de leur team, quoi.
Ouais. Et alors, est-ce que tu peux expliquer aux gens qui veut Aegon et pour quelle raison? Parce que vraiment, les gens, beaucoup de gens m'ont dit, je comprends pas pourquoi Otto et Alicent ils sont pas ensemble, genre ils sont tout, enfin
ben,
ils sont pas dans la
en
même
fait,
team.
En fait, si Otto met la main sur Aegon en premier. Otto va mettre dans l'oreille de Aegon qu'il faut tuer sa tante.
Qu'il faut tuer Rhaenyra et la famille de Rhaenyra.
Et la famille de Rhaenyra. Alors que Alicent, elle est gentille et elle veut, du coup, elle le trouve en premier et elle lui dit, Otto, la Hand of the King va te demander de tuer Rhaenyra, il faut pas que tu le fasses.
Oui. Il faut pas
que
tu le fasses.
Parce que ça va être la merde, tu vois, et voilà. Donc en gros, le point de vue d'Alicent dans cet épisode, et c'est ce qu'elle essaye de dire à Rhaenys à un moment, c'est on peut influencer le pouvoir en étant gentil.
On peut être la grande derrière chaque grand homme, il y a une femme. Hein. On peut être la femme derrière le grand homme qui va l'emmener vers moins de cruauté parce que l'énergie féminine et ainsi que les phases de la lune. Et Rhaenys, elle est la girl what. Moi, je vais être sur le trône, au revoir. Rhaenys, elle est vraiment en mode d'accord, allez.
Et toi, t'as jamais voulu être sur le trône, elle lui dit.
Ouais. Et je pense qu'Alicent, en vrai, bien sûr, elle y a pensé, tu vois. Quand t'es aussi près du trône, bien sûr, t'y penses. Donc voilà, c'est pour ça que Otto et Alice, donc, pour faire un point sur qui cherche, pour qui, Otto, il charge.
Par un
Eric.
Point sur qui est Sauron.
À la fin. Non, on va pas vous spoiler qui est Sauron, mais moi, je ne le sais pas. Donc, Otto, il charge, le cavalier de la garde royale.
Talia,
Eric Carregyle. Arrête.
Maid.
On fait un point. Une femme peut-elle être main du roi? Pas du tout. Non, pas du tout. Parce que les mains du roi sont des lords et les lords ne sont pas des femmes. Voilà. Il n'y a jamais eu, je pense, de lady main du roi. Ce sera peut-être l'occasion de faire une suite de Game of Thrones où Bran, le roi, du coup.
Lady main du roi.
J'étais sur Lady Marmelade.
Voulez-vous non, c'était Lady
avec
Oscar.
Moi ce soir Lady Voulez-vous
Oscar.
Diriger avec moi ce soir? Ok. Donc, les jumeaux Carguy.
Oui.
Qui sont les jumeaux Carguy?
Jumeaux.
À la base, il y a Eric, qui est le premier qu'on voit, qui est celui à qui Otto confie la mission de trouver Aegon. Et donc, il y a Eric et Arik Carguy. Parce que George R. R. Martin a dit fuck you. Ok, il y a 4 Aegon différents, 8 Jaehaerys et aussi des jumeaux qui s'appellent Arik et Eric parce que les parents sont cruels. Mais ok. Ils sont donc joués par 2 vrais jumeaux dans la vie, ce qui est assez rare. Généralement, c'est, alors. Doudou, c'est faux. C'est pas du gin dans mon mug. C'est de la lèvre triple. Voilà. Je passe un très bon mardi. Les jumeaux Carguy, ils sont joués par 2 acteurs qui sont jumeaux, au contraire des Lannister par exemple, qui sont joués par un seul acteur pour jouer Jason et Tyrion. C'est tout simplement des membres de la garde royale et Eric, le premier qu'on voit, celui que Otto charge de la mission, c'est tout simplement le protecteur de Aegon. Tout comme Criston, il est affilié à la reine, Eric, il est affilié à Aegon. Et ça sera intéressant de noter que c'est lui qui du coup suit Aegon le plus, qui ne veut pas que Aegon soit roi, qui dit à son frère. Tu sais, il va dans des endroits un peu bizarres, et il est un peu bizarre en fait, et peut-être je vais me barrer tranquillement un moment. Et c'est lui qui essaye d'aider Rhaenys à la fin. Et il y a Arik Carguy, qui est son frère jumeau, et qui lui va rester loyal à... Bah non, mais on nous a dit que le nouveau roi c'est Aegon, donc c'est Aegon. Donc on a une division entre 2 frères. Voilà, eux c'est la team envoyée par Otto Hightower. Alicent, elle envoie...
Et un va finir team Black, quoi, finalement.
Oui, voilà, bah il y en a un qui se barre, quoi. Et celui qui se barre, a priori, il se barre, on verra, bah, pour aider Rhaenys déjà. Alors, quelqu'un m'a demandé pourquoi il aide pas Rhaenyra. Rhaenyra n'est pas à King's Landing à ce moment-là. Rhaenyra est repartie à Dragonstone.
Je pense que ils auraient pu être plus clairs sur le fait que Rhaenyra n'est pas dans le même cas que Rhaenys enfermée dans un cachot, dans sa chambre, quoi.
Bah, écoute, alors pour le coup, il n'y a pas grand monde qui m'a demandé où est Rhaenyra, donc je pense que la plupart se sont rappelés qu'elle avait parlé du fait qu'elle allait partir et revenir. Fun fact, dans l'épisode précédent,
putain,
elle dit.
Il faut vraiment suivre cette série quand même, hein.
Ouais, l'info est quand même donnée. Mais dans l'épisode précédent, elle dit je reviens vite à d'autres dragons.
Ouais.
Au final, elle va peut-être revenir à d'autres dragons, mais un peu plus tendu, quoi, que prévu. Donc voilà. Arik et Eric, c'est la team de Otto. Alicent, elle envoie Criston Cole, son protecteur, pour se camoufler, passer incognito dans la ville et trouver Aegon. Et qui de mieux pour passer incognito avec lui que fucking Aemond qui a un eye patch de pirate et des cheveux argentés, tu vois. C'est oui, bah allons-y, il va mettre une capuche. Ça
moi,
marche,
je
du coup.
Déteste le petit chapeau de Kristen Cole.
Moi, je l'adore.
Cette semaine,
je l'adore, on dirait
infernal.
Les mecs du 11e. Ah, je
non,
l'adore.
Mais infernal.
Mais on dirait tes potes qui écoutent des vinyles et qui boivent de l'IPA.
Ouais, vois. C'est pas mes potes, justement. Et surtout, on dirait genre une casquette Gavroche mise à l'envers. Une casquette Gavroche qui aurait pas d'avant. Déjà qu'une casquette Gavroche, c'est dégueulasse. Mais là, c'est une casquette de Gavroche mise à l'envers.
Comme les bonnets marins.
Façon à une époque, Quentin Tarantino, il faisait ça un peu.
Ah ouais.
Genre,
ah oui.
Tu fais des espèces de kangol, mais à triple fermentation, là. Tu vois?
Son mais chapeau mis, de marchand.
Mis à l'envers, vraiment pourri. Tu vois,
et l'autre à côté, et
le, il est vraiment genre, je suis
dark
pas là-dedans.
De Star Wars avec son eye patch et sa capucha, j'étais là, mais faut arrêter. C'est vraiment genre, j'étais là, mais on est où? C'est, enfin, tic et tac à la ville, quoi. Ils
alors,
sont ultra
on va aller vite. Ils vont d'abord à la Silk Road.
Ouais, alors eux, ils vont.
Silk.
En fait, la logique, Silk... c'est que Aemond, il dit, moi, je suis frère de Aegon, je le connais bien, donc je sais où je vais le trouver. Je vais le trouver au bordel de la rue de la Soie.
Ouais.
Où il m'a emmené perdre mon pucelage à 13 ans. Ce dont la tôlière se souvient visiblement.
Ouais, t'as bien
là...
grandi, mon petit oh, bonhomme.
Eh, mon mignon.
Dis donc. Et là, c'est la première fois où on le voit un peu genre.
Ouais, il est un peu genre.
Il est un peu genre terrorisé par le sexe, non?
Bah, visiblement, ça a pas l'air d'être. Il est pas à l'aise avec ce qui se passe et je pense qu'il a pas trop retrempé son biscuit depuis. Je pense pas que ça a été sa passion.
Tu veux dire qu'il a pas trempé le pain-pain?
Il n'a pas ébroué les ailes du dragon. Non, ça marche pas.
Il n'a pas butiné la fleur du milk of the poppy. Il n'a pas,
il n'a pas
déversé le milk of the poppy dans le vase de
poppy. C'est ça, c'est dans le gobelet royal.
Dans le vase of the mummy.
Le vase of the mummy. Ah non, c'est cursed. Ah, c'est cursed. Ok. Donc, eux, ils vont dans un bordel rue de la Soie et la tôlière du bordel leur dit, votre Aegon, ça fait longtemps qu'il a des goûts un peu trop spécifiques pour cet endroit et qu'il va ailleurs. Et il se trouve que Eric, le garde de Aegon, lui, il sait bien où il va, donc peut-être qu'il le connaît mieux que son propre frère, finalement. Mmh. Et, il va direct dans un
fight club d'enfants qui ont les dents limées pour être plus en pointe et les ongles pas coupés.
On est où là?
C'est n'importe quoi.
Qu'est-ce
et en plus de ça, les gamins ils se battent. Et en plus de ça, c'est genre, et regarde dans le donjon là-bas, il y a un petit Targaryen, c'est le bâtard Aegon qui attend de se faire de se taper.
Et là, c'est pas un spoiler, c'est vraiment ce que la série vous dit, c'est que Aegon vient là tellement souvent qu'il a un de ces bâtards qui est ici. Donc la série n'arrête pas de nous dire Aegon est le pire connard, mais par des actes qu'on le voit pas faire, parce qu'on le voit pas violer la meuf dans l'épisode précédent, et là, bah il est pas là, au final, on sait qu'il vient, mais il est pas là.
Donc
et
le mec juste a
quand on
fait
voit,
un enfant
un
pour qu'il se batte dans un fight club.
Bah je pense pas qu'il l'a fait exprès, si tu veux, hein. Je pense qu'il a soulevé tout ce qu'il voulait, littéralement, et que ça a fini par faire des bâtards. Je vous le dis depuis le début, mais c'est important de se rappeler qu'il y a des bâtards Targaryen en liberté, dans une série qui se base autant sur le lien du sang, et dans une série où les Targaryens sont littéralement magiques, puisqu'ils peuvent contrôler des dragons. C'est bien de savoir qu'ils sont pas tous à King's Landing et à Dragonstone, quoi. Il y en a qui font leur vie, visiblement, dans des fight clubs pour gosses. Bon. J'ai pas trop aimé les fight clubs.
Est-ce que comment, ouais, moi non plus. Mais bon, ils sont là. Non. Mais, comment on, c'est vrai qu'ils auraient pu, on n'avait pas besoin. Tu vois.
Alors, mais c'est pire dans le bouquin. Enfin, la pire version dans le bouquin. Donc, toutes les versions dans le bouquin disent que Aegon a été retrouvé s'adonnant à ses plaisirs, on va dire. Donc, pas dans le donjon, pas à King, pas dans le Red Keep, pas dans le château, plutôt avec des prostituées. Mais la version la pire, évidemment, celle de Mushroom, le fou du roi, dit qu'il était en plein acte pédophile puisqu'il était en train de avoir du sexe oral prodigué par un enfant pendant qu'il regardait deux enfants se battre. Donc finalement, c'était un fight club de gosses, mais avec la pédophilie en plus. Là, au moins, ils ont pas mis la pédophilie, donc j'étais là, merci HBO, j'avais vraiment pas envie de voir ça dans ma télé, donc good. Et je pense que c'est un cap qu'on passera très peu, parce que, enfin, dans Game of Thrones, il y avait Arya qui tue un pédophile, et c'était déjà compliqué les scènes avec lui. Donc ouais, Aegon n'est pas... Mais après, et juste après, le narrateur rappelle que Mushroom, qui est la seule source pour ça, n'était même pas à King's Landing à ce moment-là. Donc il faut jamais trop... On sait jamais trop croire dans Fire and Blood. Et là, du coup, ils ont fait un mi-cuit de... Il y a un fight club de gosses. Aegon, il y va souvent. Il a un bâtard là-bas, mais il est pas là en train de kiffer voir des gosses s'égorger pendant que son père est mort. Bon.
En fait, il est... Peut-être qu'il y était et que Misaria l'a chopé, lui a dit « Eh, on te fout dans le fucking red key. Non, dans le.
Parce que Misaria, elle a su avant tout le monde, ouais, que Viserys était mort, tout à,
ouais,
fait.
Ouais.
Parce qu'elle a eu les bougies à, oui, la fenêtre.
Donc elle l'a mis de côté en mode, ouais, en mode,
dans
en mode un peu.
Ah bah clairement, elle l'a pas pris en otage, mais, ouais, elle l'a conservé en lieu sûr, elle l'a protégé. Source Misaria.
Et elle, ça, c'est aussi, c'est un changement par rapport au bouquin, parce que là, ils essaient de nous vendre Misaria comme défenseuse
du peuple.
Enfin, genre contrôle l'underworld, mais, ouais, faut pas pousser, c'est quand même abuser les fight clubs d'enfants. Donc, oui, on va se servir de j'ai caché
Aegon
comme levier.
Comme
pour demander,
ouais,
à Otto Hightower d'empêcher les fight clubs d'enfants.
Ouais, bah alors on parlait depuis le début du fait que je trouve que ça manque un peu de peuple dans House of the Dragon. C'est très très les nobles et pas trop le peuple. Enfin très peu, voire pas du tout. Et du coup peut-être que Misaria amène cette idée de. En fait dans cet épisode il y a deux axes autour de comment vit le peuple finalement de tous ces gens qui se battent pour le trône. Il y a l'axe Fight Club de Goss et Misaria qui du coup négocie avec Otto effectivement que je te dis où est Aegon si tu t'engages à faire quelque chose contre les Fight Club de Goss, merci. Et on a quand même Rhaenys qui encore une fois tue probablement plein d'innocents qui ont été ramenés en plus contre leur gré
à l'infirmerie.
Pardon, les envoie à l'infirmerie. Mais après ça leur fait 2-3 jours,
on sait pas.
Tu vois, d'ITT quoi. C'est pas très pratique pour bon. Peut-être il rate Noël, il rate des mariages.
Non, mais effectivement, c'est.
Donc on commence à voir un petit peu que le peuple souffre. Bon.
Quand les dragons dansent, c'est le peuple qui se fait piétiner.
Oh, c'est très vrai.
C'est quelqu'un d'autre que moi qui l'a dit, je l'ai lu.
Mais c'était bien dit. Tu l'as bien raconté, je trouve. Et c'est le moment où, du coup, Aemond amène à Criston le fait qu'il est next in line pour le trône. Ce n'est pas du tout vrai. Et où Criston commence à se rendre compte que, ok, Aemond, il est bien, bien chaud pour monter sur le trône. C'est intéressant que Criston le sache.
Ouais. Aemond dit un truc du genre, pourquoi on est en train de chercher ce roi qui veut pas être roi?
Oui.
Moi, le jour où je serai next in line et que vous me chercherez, je ferai en sorte de me laisser trouver.
Ah oui, il dit, moi, ouais, vous n'allez pas me chercher longtemps. Mon gars.
Ouais, ouais, exactement.
Hop là.
Hop là. Hey, tu l'as pas vu passer celle-là. Eh, hey, mon pote. Eh.
Hey, eh, oh, hey, hey,
et il est où ton nez là? Hop là, il est là. Eh, hey, alors. Il est là.
Je sais pas quoi vous dire. C'est très long. Oui, sur Misaria. Bon. Je suis très triste qu'ils aient pas. En fait, j'aime beaucoup cette actrice et ça m'emmerde que ce qu'ils aient décidé de donner à ce personnage le pire accent. Et apparemment, en plus, un accent. Alors moi, j'ai pas l'oreille trop des accents en anglais, mais de ce que je vois dans les spectateurs anglophones, l'accent change à chaque épisode. Elle a un accent d'un pays différent. Là, apparemment, c'est très caribéen. Voilà.
Moi, j'ai un pote qui trouve ça perturbant et sexy.
Alors, sexy peut-être, mais je vois plein de gens critiquer son jeu et tout, et je suis là, franchement, c'est pas de sa faute à l'actrice, et elle n'a pas cet accent dans la vie, et elle est super, donc je suis un peu triste pour elle.
Donc c'est de sa faute si elle a pas cet accent dans la vie.
Bah non, c'est la faute du réal qui lui a dit, fais cet accent, c'est une bonne idée, et qui l'a regardé au montage, ouais, et a dit, ouais, on le garde, ouais, ouais. Non. Et tu vois, là, il y a 15 ans qui se sont passés dans la série depuis qu'on l'a pas vu, ils auraient pu dire, elle a
perdu son accent.
C'est de la mauvaise
mise, c'est de la mauvaise direction d'acteur.
Moi, je trouve. Et apparemment, ça ne convainc pas grand monde. Donc, alors l'actrice est d'origine japonaise, effectivement, mais elle a pas d'accent. Enfin, moi, je l'ai vue dans une série qui s'appelle Devs, où elle n'a pas d'accent. Enfin, et pas celui-là en tout cas. Donc, ça, je trouve que ça sort un peu du truc. Et
non,
je suis
on
m'a
dit qu'elle avait un accent british.
Ah ouais.
Ouais. Pas un accent
british
normal.
Je
quoi.
Sais pas où quoi. Ah ouais. Ah oui, ouais. Non, elle a pas un. Ok, ouais, non, je pense pas qu'elle a un accent british normal. Et alors, il y a des gens qui m'ont posé une question. Je sais pas si t'as la réponse parce que moi, je l'ai pas. C'est est-ce que Otto, il la reconnaît ou pas? Parce qu'il l'a déjà.
Non, il la reconnaît pas.
Souvenez-vous, quand il a été voir Daemon à Dragonstone, épisode 2.
Ouais.
Daemon qui était là, je me suis barré et ma meuf, elle est enceinte et je suis venue vous voler un œuf de dragon et Rhaenyra qui arrive sur son dragon et tout. Bah, Otto était là et la meuf, c'était Misaria.
Ah oui, c'est vrai, il la reconnaît de là.
Mais après, ça a fait 15 ans. Donc, tu vois, maybe il la reconnaît pas, ok.
Je sais pas. Mais en tout cas, quand il avait l'informateur, le White Worm, il l'avait pas rencontré.
Oui, parce que
il
c'est
dit,
le White
c'est
Worm.
C'est vous le fameux White Worm.
Il lui avait dit pour Daemon et Rhaenyra au bordel.
Exactement.
Quand ça se roulait des pelles, c'était déjà Misaria qui était derrière tout ça. Et elle avait planqué Daemon complètement bourré. Donc, c'est ce qu'elle a fait avec Aegon dans cet épisode. Donc, elle a toujours son modus operandi, c'est récupérer les princes Targaryens et les mettre en lieu sûr en attendant que quelqu'un vienne les chercher. Puis, bah, finalement, ça marche. Mais voilà, Otto l'a vu une fois il y a longtemps. Il l'avait clairement traité de prostituée de bas étage. Mmh. Et du coup, ça peut expliquer qu'il la reconnaisse pas. J'ai pas d'autre explication, mais je pense pas qu'il la reconnaît. Je pense pas qu'il sait qu'il l'a déjà vue. Et du coup, il sait pas que qu'elle a été proche de Damon. Mmh. Et ça, c'est important parce que Otto, il déteste Damon. Vraiment, c'est peut-être pas trop visible dans la série, mais il se haïsse. Et il en parle quand même un peu pendant le Green Council et tout. Il y a la menace Damon est très réelle. Il est ingérable, il est très fort en bagarre, il a un gros dragon. Donc s'il savait que le White Worm avait connu Damon intimement, je pense qu'il lui ferait pas confiance, tu vois.
Donc je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais en gros, ouais, c'est aussi un truc de la série de nous humaniser un petit peu Misaria en la faisant défenseuse
en la faisant de gauche, quoi.
Ouais, exactement.
Oui, c'est pas trop son truc dans le bouquin.
Dans le bouquin, elle est plutôt manipulatrice, elle est plutôt que pour elle, elle est plutôt
très little finger.
Ouais, exactement.
Limite Qyburn, là, le maître bizarre qui a des little
burns. En fait, on constate que dans la série, ils essayent de rendre les gens un peu plus gentils que dans le bouquin.
Ils finissent par trouver Aegon. On va parler de Rhaenys et Alicent après, mais comme ça, on finit sur Aegon. Voilà, ils finissent par le trouver dans le septuaire. On sait pas trop ce qu'il fait, enfin, voilà. Misery l'a foutu là. Il est reb. Et surtout, il a pas du tout envie d'être roi. Genre, pas du tout, du tout. Mais il a pas trop le choix.
Il supplie tout le monde. Laissez-moi me barrer dans un bateau. Vous me reverrez plus. Aemond, tu pourras être roi à ma place.
Oui.
Vas-y.
Et tu sens que quand il propose ça à Aemond, il est là.
Ouais, il me dit, t'as pas besoin de...
Ouais, il est là, maybe.
Je sais bien que t'es pas fait pour régner, mais c'est comme ça.
Et oui,
il est tellement procédurier en même temps, Aemond.
Mais tu vois, je pense pas que c'est un Stannis Baratheon qui était en mode la loi, c'est la loi, et la loi elle dit que je dois être roi, donc je vais être roi. Je pense que Aemond, c'est Aegon, je pense qu'il l'aurait bien foutu sur un bateau et laissé se barrer, parce qu'il est là, t'es pas un bon Targaryen en fait. Tu vois,
ouais,
c'est moi qui ai lu notre histoire, c'est moi qui ai le plus gros dragon. Bah, c'est Criston Cole qui arrive et qui fait « Bon, on y va ?» Et okay. Tu vois, c'est quand même un truc de buter Criston Cole en pleine rue avec le roi à côté, enfin le futur roi à côté de toi, quoi. Mais s'il avait été tout seul, je pense que si Aemond, il trouve Aegon tout seul, Aegon lui dit « Fous-moi dans un bateau », Aemond, il est là.
Vas-y, va dans le bateau.
Maybe! Sauf qu'il devrait se rappeler que c'est pas le tuer. Après, si le bateau, il coule, quoi. Sauf que, il a peut-être oublié qu'encore une fois, a priori, si Aegon, il meurt, ça va pas être Aemond le roi, mais bon. Les petits enfants, ça disparaît assez vite aussi, hein. Ça peut se régler. Et c'est à ce moment-là qu'on a du coup l'opposition.
Il est pas next in line, Aemond.
Non, c'est Jaehaerys, le fils de Aegon.
Ah,
c'est toujours le fils d'abord.
Ouais,
donc, tant qu'il a un petit garçon, c'est le petit garçon, a priori. Ouais. Et c'est le moment où Arik et Eric se séparent, puisque donc Eric part, on ne sait pas où, mais il part. Il va pas aider son frère qui se fait. En gros, Criston Cole et Aemond, ils ont pas du tout trouvé Aegon parce qu'ils savaient pas vraiment où le chercher. Ils ont suivi Eric et Arik jusqu'au septuaire et ils le récupèrent en mode merci de l'avoir trouvé pour nous.
D'aucuns diraient que c'est un peu un plot convenient.
Oui.
Tout ça.
Et en même temps, je trouve que ça va bien avec Criston, qui est un peu une petite merde, tu vois, et qui vient littéralement juste prendre le profit des autres, quoi. Il te laisse faire tout le taf. Mmh. Tu sais, c'est le gars, il fait rien en travail de groupe, et il arrive le jour de l'exposé comme une fleur en mode, ouais, c'est lui qui présente et il a une super note, tu vois. Vraiment, ils l'ont pas trouvé, et ils ont juste triché. Ils ont suivi Eric et Arik, et il profite du fait qu'il est plus fort pour juste lui voler, en fait. Il lui vole Aegon, et il est là, du coup, c'est pas Otto qui gagne, c'est Alicent. Alors moi, je préfère Alicent à Otto. Donc tant mieux, et je préfère regarder Criston Cole et Aemond que Eric et Arik, même si ils sont sympas pour des mecs du Hellfest, quoi. Mais du coup, Criston won, et c'est lui qui empêche Aemond et Aegon de peut-être se barrer. Voilà,
très
donc
bien.
On en est là sur Aegon, qui va du coup devenir roi. Bravo à lui. Et avant, on a Rhaenys et Alicent. J'ai dû me repasser cette scène 3 fois pour comprendre exactement les enjeux. Peut-être que je suis bête. Vas-y, dis-moi.
J'ai pas compris, moi, les enjeux. Donc, je te laisse en parler pendant que je fais
très bien. Ok.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus,
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ok, dès qu'il a texte, fait une pause. Du coup, Alicent vient voir Rhaenys, qu'elle garde captive à King's Landing dans le Donjon Rouge, tout simplement parce qu'elle se doute que si Rhaenys part, déjà elle va partir avec son dragon, et ça c'est nono, et qu'elle va sûrement plutôt être Team Rhaenyra. Rappelons que Daemon, Daemon, qui est le père des petites filles de Rhaenys, est marié à Rhaenyra. Que Rhaenys elle-même a été snobée par les nobles au profit d'un homme, donc peut-être qu'elle sera sensible à la cause d'une future reine comme Rhaenyra Targaryen. Que Rhaenys était très proche de Viserys, qui était son cousin préféré, ou elle était sa cousine préférée, et que en gros, elle va pas du tout être dans la team des Verts, quoi. Du coup, ils veulent pas la buter, ils peuvent pas la laisser partir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils l'enferment. Rappelons que cet épisode se passe sur 24 heures, hein, donc c'est pas comme si elle avait été enfermée très longtemps, mais ça lui a pas plu du tout. Et donc, ce que Alicent elle vient, c'est d'essayer de convaincre Rhaenys de rejoindre son camp, tout simplement, de rejoindre les Verts, et de pas être Team Rhaenyra, de la convaincre du bien fondé de sa cause, et de l'importance du rôle des femmes pour guider les hommes vers la voie de la paix. Puisqu'en gros, elle lui dit, là, à l'heure actuelle, Rhaenyra, c'est elle qui va faire la guerre et tout, nous, on peut œuvrer pour la paix, et c'est à ce moment-là... Oui, elle prend aussi le parti de... Attends, elle prend aussi le parti de Luke pour Driftmark. Est-ce qu'elle prend le parti de Luke? Parce qu'il me semble qu'elle dit que il me semble qu'elle ramène le fait que les enfants de Rhaenyra sont des bâtards dans le dans l'équation. Donc je me souviens plus si elle lui promet Driftmark. L'enfant de Rhaenys. I don't know, Marty, je suis perdue. Mais effectivement, comme tu dis, Myrillion. Attends, quoi? Si vous dites juste oui dans le chat, je suis perdue, la mif, parce que je sais pas à quoi vous répondez, on a 30 secondes de décalage. Elle promet, oui, d'accord, elle promet Driftmark aux petites filles de Rhaenys. Oui, d'accord, c'est ça. En gros, Rhaenys, elle est opposée, alors, aux dernières nouvelles, elle est opposée à Corlys Velaryon, son mari toujours mourant. On sait pas s'il va, s'il est mort ou pas. Rhaenys voudrait que Driftmark aille à Lena, non, à Rhaena, pardon, et Bella Velaryon. Les filles de Lena Velaryon, donc les enfants, les petites filles de, les petites de Daemon, parce que les enfants Velaryon de Rhaenyra ne sont pas du tout des Velaryon. Et Corlys Velaryon disait, on s'en fout, c'est pas le sang qui compte, c'est le nom. Et en fait, le nom Velaryon, il sera perpétué parce que Jace et Luke, c'est des Velaryon officiellement. Vous vous souvenez, on en était là. Et donc Alicent essaye de convaincre Rhaenys de rejoindre sa team pour encourager la paix, pour que Driftmark puisse être transmis du coup à ses petites filles qu'elle aime beaucoup. Et elle apprend par les sentiments en disant voilà, c'est le rôle des femmes et tout machin. Et Rhaenys est vraiment 100% pas d'accord. Et elle lui parle, en fait, elle lui fait cette métaphore qui est très belle. Elle lui dit tu penses ouvrir une porte ou être libre, mais tu ne fais que dessiner une fenêtre dans le mur de ta prison, quoi. En fait, c'est deux visions opposées de la lutte contre le patriarcat qui s'affrontent. Celle d'Alicent, c'est qu'on peut changer le système de l'intérieur, qu'on peut utiliser les outils du patriarcat pour se faire une place en tant que femme et lutter contre lui. Et celle de Rhaenys, qui est peut-être un peu plus lucide si je peux me permettre, c'est que on peut pas gagner quand on est sympa avec les connards. On peut pas gagner quand on utilise les outils du patriarcat et qu'on le renforce, parce que Alicent, elle est quand même en train de lutter contre Rhaenyra qui accède au trône. Et du coup, ça lui enlève, je pense, beaucoup de chances d'être Team Alicent. Ce truc de, en fait, tu fais que bosser pour les gars, quoi. Enfin, moi, j'ai pas envie d'être dans l'ombre d'un gars, le trône de fer. Allô, bonjour, j'ai failli y être et je me souviens, ça sentait bon, quoi.
Après, elle a quand même cette lucidité qu'elle y sera pas sur le trône de fer.
Oui, mais ça, elle a fait la paix avec, tu vois. Ouais. Et je pense pas qu'elle est Team Rhaenyra pour que ce soit une femme sur le trône de fer, puisqu'elles en ont parlé à l'épisode précédent, Rhaenyra et Rhaenys, devant le fameux arbre cœur dans le jardin sacré, là. Et Rhaenys, c'était pas « Ouais, girl boss, team meuf, je suis trop pour toi parce que t'es une meuf ». Au contraire, il a fallu la convaincre de pourquoi c'est une bonne idée. Elle aime pas beaucoup Rhaenyra, elle l'a jamais trop aimée. Je pense que là, et rappelez-vous que maintenant, elle pense que Rhaenyra a buté son fils, puisque Rhaenyra est censée avoir fait peut-être buter Lennor. Donc c'est ça qu'elle fait à Alicent, c'est qu'elle essaye de lui faire rejoindre sa cause, et Rhaenys dit « Girl, moi je bosse pas pour les gars, en fait ouais. ». Oh, un utilisateur anonyme a offert un abonnement de niveau 1 à Alicent Hightower. C'est incroyable ce qui se passe, et du coup, est-ce que utilisateur anonyme, tu es Larry Strong? Car c'est lui qui offrirait des abonnements secrets à Alicent Hightower.
Abonnement secret.
Abonnement secret.
Oh là là, ça c'est le début d'une histoire, ça.
Ouais, grave. Envoyez-vous des chuchotements. Ça s'appelle des chuchotements, en plus, les DM sur Twitch.
Oh, wow.
Donc, ils peuvent s'envoyer des chuchotements. Là, ok, bagarre. Ok, donc là, il y a une... Est-ce que tu veux dire des trucs sur Alicent et Rhaenys
Non, avant tout est dit.
On avance. Ok. Il y a Alicent qui confronte Otto et qui a cette phrase que j'ai notée parce que je la trouvais super, qui lui dit « Reluctance to murder is not a weakness ». Donc, rechigner à commettre un meurtre n'est pas une faiblesse. Parce qu'en gros, elle va voir Otto pour lui dire « Mec, en fait, attends, Mr. Melick a offert un abonnement de niveau 1 à Larry Strong. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi la moitié des gens sur mon chat ont des noms de persos de House of the Dragon ? Que faites-vous ? Je ne sais pas, mais je vous aime beaucoup. » Elle va voir Otto pour le confronter sur « Du coup, connard, ça fait combien de temps que t'as un plan dans mon dos avec les gars du conseil ? Qu'est-ce qui se passe, papa ?» Et lui redit « Je n'ai été qu'une pièce d'échec, tu m'as jeté sur Viserys, j'ai fait tout ce que tu voulais, je suis là à cœur, on sait... » T'as mis longtemps un peu à...
T'en as marre qu'elle le dise.
Et, bah, c'est pas que j'en ai marre qu'elle le dise, c'est que je suis là, ok, et du coup, tu fais quoi, tu vois? Et du coup, girl. Ouais. Mais alors, elle a essayé, elle a chopé Aegon, et d'ailleurs, elle est en mode, elle sait qu'elle a gagné, elle a son fils. Donc, elle va pouvoir lui dire au moins une fois merci de ne pas tuer Rhaenyra.
Elle lui a dit à ce moment-là?
Pas encore.
Non.
Mais en vrai, je comprends pas trop cet enjeu de Otto et Alicent veulent Aegon en premier pour lui dire quoi faire avec Rhaenyra, parce que je suis là, mais en fait vous traînez toute la journée ensemble. Alicent, elle va lui dire bute pas Rhaenyra. Si Otto pendant 3 jours après il lui dit bute Rhaenyra, peut-être il va le faire, tu vois, je suis là, c'est pas le gars, c'est pas un programme informatique où tu lui donnes une commande de code et après il fait que ça, enfin je comprends pas trop cet enjeu, mais
c'est vrai.
Ça faisait du dynamisme dans l'épisode, bref. Et donc, Otto fait ce truc de mansplaining total où il lui dit, en gros, c'est tes émotions qui font que tu veux pas buter Rhaenyra, mais être roi, ouais, c'est savoir sacrifier quelques-uns.
Tu pour dis, le c'est la reine ou c'est ton ami d'enfance?
Oui. Il lui dit, ah, t'es tellement squeamish et tout. Et c'est là où elle lui dit, en fait, rechigner à assassiner des gens, c'est pas une faiblesse. Et où elle lui dit, je vais faire comme je veux avec mon fils. Donc elle a ce petit moment de... Allez!
Elle fait ce qu'elle veut avec ses cheveux.
Voilà, on va voir ça marche hein, sa décision de se mettre à éduquer finalement son fils. Et c'est là où on comprend bien donc le plan, enfin c'est ce qu'elle dit à Otto. Elle, ce qu'elle va faire, ce qu'elle veut que Aegon fasse, c'est envoyer à Rhaenyra une proposition d'accord qui est respectueuse, qu'elle peut accepter sans s'humilier, donc qui inclut probablement Dragonstone, peut-être Driftmark, peut-être enfin voilà des terres, des châteaux, des places à la cour pour ses enfants, potentiellement des mariages entre leurs enfants et tout, pour que Rhaenyra puisse accepter ça sans être humiliée, quoi, pour ne pas lui faire une proposition humiliante. Et elle dit, on va au moins lui donner une chance d'accepter, on va pas aller immédiatement l'assassiner. C'est son plan, on va voir si elle y arrive, pour l'instant on ne sait pas, mais c'est ça qu'elle veut faire. Et après, Alicent a une visite nocturne dans sa chambre.
Amitié cachée. C'est Larys, il vous manquait, hein. Et ben maintenant vous êtes content de le revoir, hein, maintenant, hein.
Eh, l'épisode dernier vous étiez là. Il est où Larys?
Ah bah, il était en train de sniffer des yep.
Ah attends, salut, tu peux faire une dédicace à mon pote à la compote Noah, aka Basket la Croquette, c'est son anniversaire. Bon anniversaire Basket la Croquette.
Bon anniversaire Noah, aka Basket la Croquette. Regarde-moi dans les yeux, Noah.
Regarde-le.
Et dis-moi si t'es Team Black ou Team Green, ok? Parce que nous, on veut savoir. Parce que nous, on a besoin de savoir.
C'est vrai.
Basket la Croquette. On a besoin de savoir de quel côté tu es pour savoir si on va s'engager à te souhaiter un joyeux anniversaire ou pas.
C'est très vrai. C'est très vrai. Là, on s'engage, on ne sait pas, tu vois. Ça commence à faire des cadeaux à Larry Strong et d'où on ne sait pas. Donc, Larry Strong vient voir Alicent et l'on apprend. À quel moment t'as pigé que ça allait être « On se branle sur des yep » ?
Déjà,
il y a un peu de différence, tu vois, ça enlève ses pompes et tout.
Déjà, ouais, déjà, il y a une thématique dès le départ. Parce qu'il y a genre un gros plan sur son pied tordu.
Ouais, c'est subtil, hein.
Et après, c'est genre, et après, j'étais genre, pourquoi elle enlève ses chaussures?
Ouais.
Et après, j'étais genre, oh mon dieu, c'est ça qui est en train de se passer?
Ouais.
Oh, wow.
C'est la prise de conscience progressive de... Est-ce que c'est... Et vraiment, quand il met la main dans sa braguette à la fin, j'étais là, ah, mais on y va all-in.
J'ai trouvé
c'est même pas suggéré, tu vois. C'est...
J'ai trouvé ça dégueu, mais déconneur quand même. Et franchement, j'ai trouvé ça... En fait, j'ai trouvé ça inutile, en fait.
Oui.
Je trouve ça gratos.
Ouais, alors je suis pas fan, alors c'est pas dans le bouquin.
Après, tu vois...
Comme ça, vous le savez.
En fait, il n'y avait pas besoin, quoi. On avait déjà compris qu'ils avaient une espèce de truc un peu tendancieux
malsain,
tous les deux.
Ouais.
On avait déjà compris que
on
lui,
compris
il était genre...
On a compris qu'elle a peur de lui.
On avait compris que c'était genre, si elle dit un mot de travers, il va tuer n'importe qui,
oui.
Y compris ses parents.
Ah ouais, je pense que vraiment, elle
parents.
Tourne sa langue cette fois dans
ouais,
sa bouche
exactement.
Avant de lui parler.
Donc,
Il
y avait déjà une tension entre eux, à la fois un peu genre, lui qui est comme un larbin un peu amoureux et en fait il n'y avait pas besoin de me rajouter ce truc de pied.
Bah,
ils ont décidé de le faire, c'est un peu
ouais.
Genre c'est un peu pour garder ce côté edgy de Game of Thrones, c'est un
ouais.
Petit peu pour faire du sensationnel. Bon, passons, c'est marrant, ça nous donne de quoi discuter, il va y avoir des mèmes. En fait,
ah, il y a déjà tellement de mèmes.
Franchement, cette série,
le seul truc que je savais sur cet épisode avant de le voir, c'est qu'il y avait un truc de pied. Et je pensais que ça allait être
ah ouais
un truc dégueulasse.
Comment
j'avais
tu le savais
déjà
par Reddit
parce que j'avais vu passer des tweets, des random tweets ou des random mèmes
ah ouais
qui disaient genre quelqu'un qui se cache les yeux, genre moi devant la scène du pied. Et du coup, je croyais que ça allait être un truc dégueulasse, tu vois.
Ouais.
Et en fait, enfin, je
bon,
pensais que ça allait être gore,
ouais,
parce qu'il y a plein de trucs gore bon, dans.
C'est évoqué, quoi. Enfin, c'est.
Ouais.
Ouais. Moi, je pense que moi, ça, pour moi, ça. En fait, là, on regarde la série du côté du business de Hollywood, et
ouais,
on se dit que ils ont besoin de générer des mèmes. En fait, est-ce qu'on peut faire une série en 2022 sans générer des mèmes?
Bah après tu vois genre
est-ce qu'on peut
il y a mille façons de générer des mèmes, mais le fétichisme des pieds c'est toujours une bonne façon, et c'est marrant que ça a fait bloquer beaucoup plus de gens que le Fight Club de Ghost par exemple dans cet épisode,
ouais,
tu
ouais,
vois.
Ouais.
Il y a beaucoup plus de gens qui m'ont écrit sur genre
ouais,
quoi les pieds et tout.
Ouais.
Moi, j'étais pas fan non plus, honnêtement. Je trouve ça un peu facile.
C'est juste du clickbait.
Et on a quand même, alors pour faire ma relou de wokiste, hein, comme d'habitude, on a quand même un des seuls personnages handicapés de cette série, qui est en plus l'un des seuls à être handicapé de naissance, qui est déjà le personnage qui le voit dans les ombres, qui est hyper, voilà, hyper sneaky et tout, donc qui est pas un personnage positif, et qui là se trouve avoir un fétichisme sexuel
par rapport à
son propre handicap qui l'impose clairement à une femme puisqu'on est sur une situation de violence sexuelle. Et je suis là, c'est pas hyper subtil et c'est pas, en fait je suis d'accord avec toi que c'est un bon mème, c'est une bonne vanne, mais du coup est-ce que c'est pas un peu dommage comme vanne pour un perso qui mérite mieux et peut-être une thématique en général qui mérite mieux. George R. R. Martin, il est quand même pas mauvais pour écrire des personnages qui ont des handicaps physiques. Bah il y a Tyrion, hein, notamment le plus connu, mais aussi Bran, mais aussi Hodor, enfin qui ont des handicaps physiques ou mentaux. Il les écrit avec pas toujours beaucoup, enfin pas toujours 120% de finesse, mais il en fait des choses intéressantes. Et là j'étais là en mode ah yes, le mec qui a un pied qui marche pas, il se branle sur les pieds. Bon.
Ouais, un peu bon, moi ça va.
Voilà, je suis pas 100% fan,
mais
et il y a mon petit cœur de gaucho
que...
qui est là.
Ouais, mais mieux vaut ça que violer les enfants ou faire des fan clubs.
Bien
des
sûr,
fan clubs.
Toujours moins pire que Aegon Targaryen,
ouais,
second of his name, actuellement, ouais, roi des premiers hommes, des Andals, de Westeros, tout ce que vous voulez, protecteur du royaume.
Les Rhoynars.
Mais du coup, pour vous dire, en fait, est-ce que tu te souviens? Qu'est-ce qu'il négocie, Larys, à ce moment-là? De quoi il parle pendant cette discussion, ou est-ce que...
On pense qu'au pied.
Ouais, voilà, on pense qu'au pied. Hein. Du coup, ce dont il parle, c'est qu'il lui dit, il y a un réseau d'espionnage à King's Landing, no shit, qui fournit des infos à ton daron, no
ouais
shit, et je peux y faire quelque chose. Et du coup, Alicent, elle dit, bah ok, bute la personne qui est à la tête de ce réseau d'espionnage, et c'est là où il lui fait un signe en mode, faut enlever les chaussettes, là, madame. Tu t'enlèves les chaussettes et je le fais, quoi. En quoi c'est une violence sexuelle? En fait, Alicent, elle est pas vraiment en position d'accepter ou non. C'est un de ses seuls alliés. Elle a peur de lui depuis qu'il a buté. Un jour, elle lui a dit « Mon père me manque ». Et lui, il a immédiatement fait brûler vif son propre père et son propre frère pour faire revenir Otto Hightower à la cour. Voilà, je pense qu'elle a vraiment très peur de lui. Elle est clairement en train de subir le moment. Ça l'excite pas. Elle participe pas à cette activité sexuelle. Elle est, et en fait, elle est pas vraiment en position de consentir ou de ne pas consentir. Qu'est-ce qui se passe quand tu dis non à Larys Strong? Est-ce que t'as envie de le découvrir? On est à minima dans une zone grise et probablement dans un full, le consentement n'est pas présent. Et il y a un petit moment d'ailleurs quand elle envoie... Ah tiens, on en a pas parlé. Quand elle envoie Kristen chercher Aegon, elle a un petit moment où elle lui dit genre « Au nom de l'amour que vous portez à votre reine » et ils sont un peu genre... En mode il s'aime.
Ah oui, 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 oui,
il
y a une vibe 100%.
Il y a une vibe.
Il y a ça.
De... Ouais, ouais,
et il y a aussi un moment où Larys parle à Otto Hightower et Otto lui dit, dites donc, t'as cru que j'avais pas remarqué que vous passez des heures et des heures et des heures ensemble avec Alicent?
Ouais.
Ouais, et ouais. Larry, il lui dit, il n'y a pas de raison que les heures que, je passe avec Alicent ne puissent pas vous profiter.
Donc, il y a un truc aussi de les deux alliés, les trois alliés qu'elle a principaux. Alicent, c'est son daron, qui a une emprise sur elle, et deux mecs qui veulent la sauter, fondamentalement, qui ont en tout cas qui la sexualisent et qui la... Le genre est important, quoi. Le fait que ce soit une femme et que ce soit des hommes est important.
Et en plus, potentiellement, Larry se complote aussi avec son daron dans son dos.
Oui.
Puisqu'il lui dit, il n'y a pas de raison que ça puisse pas vous profiter.
Et la dernière meuf dont Kristen était amoureux, quand elle l'a rejeté, il s'est retourné contre elle et il s'est allié à Alicent. Donc concrètement, elle peut pas dire non à grand monde. Et il y a quelqu'un dans le chat qui disait, elle subit comme elle a subi toute sa vie. Et c'est vrai, Alicent, elle a... Mais arrêtez, un utilisateur anonyme a offert un abonnement à les pieds de Alicent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Dénoncez-vous. Qui crée des comptes pour aller offrir des subs sur mon chat? C'est incroyable, j'aime tout ce qui se passe. Continuez. Je comprends pas, mais j'aime tout. Voilà, donc pas fan de ce fétichisme, mais pour finir le chapitre violence sexuelle, car c'est toujours fun dans un débrief de série télé, je trouve que cette scène a été bien filmée parce qu'elle se concentre sur le malaise d'Alicent. Elle nous force pas à voir... l'acte sexuel de Larry, on le sait, on le voit glisser sa main, mais on s'attarde pas dessus. Et en fait, on se focalise sur l'important dans cette scène, qui est le mal-être d'Alicent à ce moment-là, qui nous dit tout ce qu'on a besoin de savoir sur. C'est pas la première fois, clairement, ça se voit. C'est effectivement transactionnel, et elle est pas vraiment consentante. Et clairement, ça l'excite pas, quoi. C'est pas son truc.
Je pense que ça aurait tout changé qu'ils mettent pas la main dans sa braguette.
Oui, c'est parce que ça aurait été un truc de il va se branler plus tard en y pensant, tu vois, genre c'est là on serait zone grise, tu vois. Mm-hmm. De elle sait pourquoi elle enlève ses chaussettes.
Elle
mais
le
OK,
sait.
C'est juste enlever
elle
ses chaussettes.
Force, mais ça va,
et ça la met mal à l'aise parce qu'en plus elle est un peu hyper religieuse et tout, mais là on est vraiment en fait se masturber devant quelqu'un qui a pas envie, c'est une agression sexuelle, donc ne faites pas ça. Et clairement elle a pas vraiment envie, mais elle peut pas vraiment dire non. Mais c'est des personnages complexes, hein. On peut dire oui, mais bon, c'est Alicent, elle a cap à traîner avec des gars ultra bizarres et tout, mais bon.
Après, des gens qui consciemment enlèvent leurs chaussettes pour obtenir des choses, que ce soit des informations ou de l'argent, il y en a qui le font.
Oui, tout à fait. Et après, on peut parler de la problématique du consentement dans le travail du sexe, mais c'est pas le sujet de ce débrief. Ça va être à la fois très long et un peu déprimant.
Si t'étais reine et que tu disais, je peux peut-être avoir des informations qui vont me donner l'avantage. Alors après, le débat, c'est est-ce que Alicent est déjà en train de comploter ou.
Mais tu sais, ça commence comme ça. C'est ça le problème. C'est qu'un jour, elle a dit, vas-y, je peux le faire pour ça. Et en fait, une fois que tu l'as fait une fois, tu vas continuer à le faire. Il faut jamais céder au chantage parce qu'ils vont toujours demander plus, tu vois. Ça marche aussi avec les gros tocards d'agresseurs sexuels. Mais voilà, le deal, c'est contre Seyep, il va tuer Misaria, et donc la maison en feu qu'on voit, c'est la maison de Misaria, la maison du White Worm,
mais...
où on l'avait vu récupérer Daemon et où on l'avait vu retrouver Talia. Mais on ne sait pas si elle est morte. Et on sait pas
et
si Talia
quand
est morte.
Quand on voit pas un personnage, qu'est-ce que je vous dis à chaque fois?
Mais tu te souviens de Stannis? Moi j'ai cru pendant deux saisons qu'il n'était pas mort parce qu'on l'a pas vu mourir.
Ouais,
et il était mort.
Parce que ça, c'est de la mauvaise écriture au moment où Benioff et Weiss sont en roue libre.
Ouais.
Mais là, on espère que les gens sont un peu plus sous compte, que les showrunners savent un peu mieux ce qu'ils font. On est en 2022. Tu ne vois pas quelqu'un mourir à l'écran. Tu ne vois pas les yeux se fermer à l'écran.
Il ne faut pas partir du principe qu'elle est morte. Non. Peut-être, on verra. Mais voilà. Bon, on n'y croit pas trop sur le chat pour l'instant.
Et si elle n'est pas morte, rien ne lui dit que c'est pas Otto Hightower qui a fait demander sa mort.
C'est vrai.
Donc.
Cela dit, Larry, on sait qu'il bosse avec les deux.
En même temps, ça pourrait très bien l'être. Et en fait.
Ça nous met
potentiellement Misaria directement dans le camp des Blacks.
Yes. On va voir ce qui se passe. Alors, Talia, pour info, elle est enfermée dans le Red Keep pour l'instant. On voit une scène à un moment où, en gros, ils prennent tous les serviteurs et ils les foutent dans un genre de cachot en mode « on vous met là le temps que ça se tasse ». Et on voit Talia et il y a Larry Strong qui la regarde. Donc voilà, elle n'était pas dans la maison qui brûle. Donc a priori, elle n'est pas morte. Après, le jour où Alicent apprend... On la voit en capuche partir.
C'est Talia qu'on voit, non?
Talia ou...
Non, je pense qu'il parle de...
Misaria. I don't know. Est-ce qu'on la voit partir?
Je crois pas.
En tout cas, on voit sa maison qui brûle. Donc si vous vous demandiez c'est quoi la maison qui brûle, c'est celle-ci. Ensuite, on a Eric qui exfiltre Rhaenys.
Maison qui brûle. Et à ne pas confondre avec l'épisode de Mystère, la série télé Mystère, la maison qui saigne.
Et oui, car ce n'est pas la même chose.
Ça n'a C'est Fire and Blood, deux choses différentes.
Si tu mixes les deux, ça fait un mariage Targaryen. Réussi.
Mais si jamais un jour vous avez envie de regarder un épisode de reconstitution d'horreur un petit peu déconneur, intéressez-vous à la série 90s Mystère, au pluriel.
Au pluriel.
Avec cet épisode La Maison qui saigne, qui a empêché beaucoup d'enfants dans les années 90 de dormir pendant très longtemps.
Nous, on avait,
y compris moi-même.
Moi, j'avais Chair de poule et Fais-moi peur. Juste après, toi, tu avais Mystère.
Ouais.
C'est Larys, la maison qui brûle. Ouais, c'est Larys qui a fait foutre le feu à cette maison. Alors, on a vu que c'est, enfin, en tout cas, c'est ce que la série nous dit, hein, clairement. On a vu qu'il a, il a foutu le feu à son propre chez lui, donc.
Enfin, il a demandé à ses copains avec le petit insecte.
Oui, il a fait foutre. Bien sûr, il y a pas été personnellement.
Il a des espèces d'esclaves qui ont tous un petit badge d'insecte.
Ouais, un petit badge d'insecte et la langue coupée pour ne pouvoir parler à personne. Donc, on a Eric, l'un des deux jumeaux, qui décide donc c'est celui qui s'est barré, hein, au moment de la bagarre, qui décide d'exfiltrer Rhaenys, de la foutre sur un bateau et d'au moins la libérer de là. Alors bon. Pourquoi elle spécifiquement?
Elle dit, mais j'ai mon dragon.
Oui, j'ai mon dragon garé au parking, là, je peux partir en dragon.
Pas le
et
temps.
Lui, il est là. En fait, c'est évidemment là qu'ils vont chercher, ce qui est vrai, parce que ils savent qu'elle partirait jamais sans son dragon. Mais ils sont malheureusement séparés par des mouvements de foule à King's Landing. Que se passe-t-il?
La foule est manipulée, la foule est...
Ah là là, les cordons, là, les CRS et tout, ça nasse.
Voilà,
et
la
tout,
foule est menée vers le Dragon Pit.
Ce qui ravit Rhaenys, puisqu'elle perd...
Littéralement comme des moutons, il y a même des vrais moutons dans le...
Ah bah, il y a de tout, hein. Je pense qu'il y a de la poule, il y a du sanglier, il y a tout ce qu'il faut. Je pense que ça schmoute un peu King's Landing. Et Rhaenys, quand elle voit où elle se dirige, elle est là. Ah bah, très bien, on retourne au parking, super, ça m'arrange.
Tout.
Donc on voit que c'est un couronnement qui est quand même extrêmement précipité, puisque en gros il y a les lords qui étaient présents à King's Landing à ce moment-là et la population, et c'est tout. Ils vont pas inviter des lords d'ailleurs, etc. Le but, c'est d'aller le plus vite possible. Dans le bouquin, ils attendent une semaine, là ils attendent 24 heures et on va couronner Aegon devant le max de figurants.
Et pour genre légitimer, pour, tu vois, genre insister sur le côté... c'est lui le vrai roi. Il lui file Blackfyre, l'épée là.
Oui, tout à fait.
Il lui file Blackfyre et il lui file
l'épée en acier valyrien.
Et il lui file la couronne que Viserys ne portait pas,
oui,
qui est la couronne d'Aegon qu'ils avaient mise au frais depuis Baelor, non? Maegor.
Maegor
le
cruel. Oh là là, mais le point
couronne. Alors,
Aegon a actuellement trois éléments de l'armure Targaryen, enfin trois éléments qui signifient la royauté des Targaryens. Il a Blackfyre, l'épée qu'il brandit à la fin quand il est couronné.
L'épée d'Aegon le Conqueror.
Oui, en acier valyrien.
La couronne d'Aegon le Conqueror en acier valyrien.
Et la dague Catspo de Viserys, celle qui, quand tu la mets dans le feu, il y a la prophétie, il y a la Song of Ice and Fire qui s'écrit dessus.
Exactement, et tu sais ce qu'on dit, hein? Quand on porte de l'acier valérien, c'est qu'on n'est pas un galérien.
C'est très vrai, car c'est très cher. Du coup, il a ces trois éléments, et alors on m'a demandé pourquoi il y a deux couronnes différentes. Effectivement, il y a une couronne qui était celle portée par Viserys, qu'on voit Alicent déposer sur son cadavre dans cet épisode, qui est plutôt dorée, plutôt light, et enfin plutôt lumineuse. Et on en a une autre qui est beaucoup plus noire, avec des gros, un gros rubis rouge.
Mais Jaehaerys avait une couronne.
Jaehaerys, il avait la même que Viserys.
Ouais, t'es sûr?
Ouais, alors j'ai attendu.
Dans le premier épisode.
Sur le wiki
dans le premier
of
épisode,
Ice and Fire, il y a une liste des couronnes.
Oh,
et j'ai été voir la chronologie des couronnes. En gros, il y a eu la couronne de Aegon le Conquérant. C'est celle que Aegon a actuellement. Donc la noire et rouge. Qui a été portée ensuite par, effectivement, en dernier, Maegor le Cruel, qui était un roi Targaryen tellement cruel.
Cruel.
Voilà, déjà parce qu'ils sont subtils et qu'ils ont décidé que sa couronne, elle était un peu mauvais présage. Tu vois, on va la mettre au placard, on va marquer une rupture avec ce gars-là. Du coup, il y a Aenys et Jaehaerys qui ont eu une couronne et ensuite Jaehaerys, pendant son règne, a changé de couronne et a eu la couronne qui est devenue celle de Viserys. Donc actuellement, vous en foutez de tout ça, il y a deux couronnes. Il y a celle que Aegon porte, qui est une couronne
noire,
c'est important, qui est la
pour
couronne
le prochain épisode.
De Aegon le Conquérant.
Sauriez-vous deviner pourquoi?
Et il y a une autre couronne qui était celle de Viserys qui n'est, bah, du coup, pas sur la tête de Aegon. On verra pourquoi. Voilà. Vous verrez. Viserys, sur la fin, il a eu besoin de beaucoup de couronnes rapport aux dents. Respectez-nous. Respectez-nous, le rôdeur.
Ouais. Passons.
Il y a Alicent et Aegon qui parlent quand même dans la carriole. Où elle lui dit.
Ah, important, ça.
Ça, c'est important. Est-ce que tu veux raconter?
Ouais, ben en gros, elle lui dit, tu vas pas buter ta tante.
Oui, elle lui dit, ok, tâche numéro 1, ne bute pas ta tante, STP.
Et lui dit, ouais, ben...
Lui, il dit globalement, j'ai même pas envie d'être là.
Ouais, voilà. Et à un moment, je sais pas, elle lui pose une question et il répond un truc du genre... Il lui pose une question et je sais pas, qu'est-ce qu'il lui pose imbécile. Comme question elle, il Quelqu'un lui pose comme question et lui répond, est-ce que tu m'as... Do you love me?
Oui, il lui dit, est-ce que tu m'aimes? Et elle lui dit, imbécile.
Ouais.
Soit de façon mignonne, genre imbécile, bien sûr que je t'aime, soit on n'a pas la suite.
Ouais, mais le body language, elle dit quand même genre, imbécile.
Ouais, et en même temps, elle sourit.
Donc elle dit non.
Mais elle sait que c'est un gros violeur et tout. Dans l'épisode d'avant, elle le détestait. Ah, toi, t'as regardé Lie to Me. T'es là, elle dit non avec sa tête, ça veut dire qu'elle pense non même si elle dit oui, tu vois. Ça, c'est des trucs de mentaliste.
J'ai regardé Lie to Me.
Ok, bah, c'est des trucs de mentaliste.
Mais en tout cas, ouais, si elle dit non avec sa tête, c'est quand même ça.
Quoi, c'est sa sœur, pas sa tante. De quoi vous parlez? Est-ce qu'on s'est trompé sur un truc ou est-ce que c'est dans le chat? I don't know. Important.
C'est sa sœur, pas sa tante. Non.
Ah oui, si. C'est en fait oui, c'est sa.
Ah oui, c'est sa sœur. Je suis con.
C'est sa sœur, oui, parce que c'est la fille de son sœur. Père. Tout à fait. C'est très vrai.
Ouais.
Mais les enfants de Rhaenyra sont les neveux de. Ben bref, c'est Aemond qui appelle tout le monde nephews. Tu vois, je suis assez confusant. Ouais. Mais en effet, c'est sa sœur. Important, deux choses. Aegon ne croit pas du tout à cette histoire de prophétie. Il dit à sa daronne, en fait, papa, il avait 20 ans pour me dire s'il voulait que ce soit moi qui soit roi.
En gros, elle lui dit, ton père a dit que c'était à toi d'être le roi parce que machin avant de mourir. Et il rigole, littéralement.
Il est là, d'accord, maman.
Et après, elle lui montre la dague et elle dit, quand même, elle est chouette cette dague.
Ouais.
En fait, en gros, il y a cette dague, il y a l'épée, il y a la couronne, il y a le peuple qui lui, machin, il commence à y prendre goût, en fait.
Ah, bah là, quand il a la standing ovation, il est chaud. Mais c'est important de savoir qu'il croit pas à la prophétie. Enfin, il croit pas, en tout cas, que c'était la volonté de Viserys de le faire roi, parce qu'il dit, bah, en fait, mon père, il a eu toute sa vie pour déjà me dire
il
bonjour.
Il parle même pas de prophétie, parce qu'il a rien compris à la prophétie, l'autre.
Oui. Mais, tu vois, il a la dague, où si elle tombe dans le feu, il y a des trucs écrits dessus.
Ouais, mais.
Donc peut-être, en fait, la question qui est, alors, elle a été amenée dans un des podcasts que j'écoute, donc je vais pas prendre tout le crédit, ok. C'est Marjorie Rubin qui l'a amenée, c'est Marjorie Rubin. Est-ce qu'il y a une chance que Alicent se rende compte de son un jour qu'elle a eu tort et que Viserys il parlait pas de ce Aegon là? La seule façon dont elle peut le savoir, c'est si quelqu'un lui dit c'était quoi la prophétie de Aegon le conquérant et qu'elle fasse ah merde. Ah merde, c'est exactement ce que l'autre il m'a raconté sur son lit de mort, du coup c'était pas le bon Aegon.
Donc,
et là,
soit
elle
quelqu'un
a une dague
dit,
où il y a la prophétie écrite dessus.
Soit quelqu'un lui dit, parce qu'à mon avis, il y a quand même des maesters qui l'ont écrite quelque part, cette prophétie, parce que sinon, Rhaegar ne l'aurait jamais apprise dans Game of Thrones.
Oui.
Ou que la dague tombe accidentellement dans le feu.
Ou que Rhaenyra lui en parle, mais il y a peu de chance. Je pense pas qu'elles vont beaucoup se faire des confidences sur l'histoire des Targaryens.
Des câlins, en tout cas.
Et du coup, voilà, il y a cette dague qui est un peu une dague de Tchekhov, quoi.
Ouais.
Parce qu'il y a la prophétie.
Bah ouais. Et cette dague, et en fait, le fait que ça passe entre les mains d'Aegon, ça marque la rupture du passage de serment, en fait.
Ouais. Alors, à part Rhaenyra, qui est au courant pour la prophétie, bah, à part Rhaenyra, personne,
mais au final, des maesters. Des maesters, parce que sinon, en fait, dans Game of Thrones, on nous raconte que Rhaegar en a entendu parler de cette prophétie.
Mais tout ça, c'est un truc qui est nouveau, qui est un peu nouveau de House of the Dragon. C'est pas dans le bouquin cette histoire de prophétie que les Targaryens avaient. Donc c'est
Moi, je pense que ça n'a pas besoin d'être dans le bouquin.
Voilà, ça peut ne.
Ça change rien que ce soit pas dans
en
le
fait,
bouquin.
En fait, les gens qui ont écrit le bouquin sont pas censés savoir cette prophétie parce que c'est que les rois Targaryens qui le savent et tout. Mais là, de ce qu'on sait nous en tant que spectateurs de la série, c'est qu'il y a Rhaenyra qui est au courant. Que c'est marqué sur la dague, à peu près la même chose, et que du coup Alicent en a entendu un fragment en pensant que ça parlait de son Aegon à lui. Quoi.
Bah, si on suppose que Game of Thrones, la série, est canon par rapport à House of the Dragon, on sait que d'autres gens savent que cette...
Mais peut-être pas encore, peut-être qu'ils vont l'écrire dans la saison 4, tu vois, il y aura un maître qui l'écrira. On ne sait pas encore.
C'est vrai. Voilà. Good point.
Il y a une marque-page avec la prophétie dessus qui se balade pour l'instant du côté d'Aegon.
Mais on sait qu'elle va survivre cette prophétie. On sait qu'elle va, elle va être, elle va pas être repassée entre rois Targaryens.
Non.
Mais elle
sera pas perdue.
Elle sera pas perdue complet.
Pas à jamais. Ok. Qu'est-ce qu'on pense de ce couronnement?
Parce que ça devient l'obsession de Rhaegar.
Oui, qui finit par se marier avec la sœur de Ned Stark et faire Jon Snow, souvenez-vous. C'est lui Rhaegar, c'est le papa de Jon Snow. On pense quoi de ce couronnement dans le Dragon Pit, Aegon, les trompettes, les gens
Il prend la confiance, c'est un peu les superstars du catch. ils lui font un couronnement méga spectaculaire, etc. Le peuple qu'on sait déjà qu'il n'était pas méga chaud sur Rhaenyra, ouais. Et ben là il est ravi de ce nouveau roi. De toute façon le peuple il fait un peu ce qu'on lui dit.
Qu'il y a un micro doute. Genre ils arrivent, ils savent pas trop pourquoi ils arrivent.
Ouais.
Et alors pour info, George R. R. Martin a dit que le Dragon Pit peut accueillir 80 000 personnes. C'est littéralement le Stade de France. Le Stade de France peut accueillir 80 000 personnes. Donc il y a du monde. Et Otto il fait le roi est mort. Et juste avant de mourir, il nous a dit qu'il voulait son fils Aegon sur le trône. Et il y a un blanc quand même. Tu vois, y a tout le monde qui est là.
Ouais.
Ah, ça tombe pas mal quand même.
Ouais.
Et après, ils sont là. Ok, oui, d'accord, super, vive Aegon.
Bon, mais voilà. S'il a la couronne de Aegon the Conqueror et qu'il a une super épée, alors oui.
Oui. On n'a pas parlé de la scène avec les nobles quand ils doivent choisir leur camp. Alors elle est brève, mais oui, effectivement, Otto avait dit à tout le monde Viserys est mort et c'était Aegon. On a parlé vite fait de Caswell, mais il y en a un autre qui se barre et qui se fait. Pour le coup, on ne sait pas s'il se fait tuer. Mais... Oui, les nobles...
Raccompagnés par des militaires, quoi.
Voilà. Donc, il y a sûrement quelques lords présents, qui sont les lords qui étaient au Donjon Rouge à ce moment-là, et qui ont été emprisonnés, qui ont prolongé leur séjour, par diplomatie, on va dire, un petit peu forcée. Donc, il y a des nobles pour assister à ce couronnement, il y a beaucoup de gens du peuple, et il y a, Kristen Cole, etc., pas mal de gens importants, évidemment, à King's Landing. Il faut qu'on parle de plusieurs trucs. La première, c'est un fun fact, c'est que, quand il y a les trompettes et les soldats qui font une haie avec leurs armes et que Aegon arrive, c'est le thème musical de Robert Baratheon qui arrive. Du coup, ils en ont fait la musique royale et je trouve ça assez cool. Voilà, j'ai entendu dans un de mes podcasts et j'étais là, oh, c'est bien la musique quand même.
T'aimes bien la musique maintenant ?
J'adore la musique. On a fait le point couronne, on m'a demandé...
Vraiment, quel retournement de situation, quel twist ?
Ah mais attends.
Le twist final de la...
C'est l'épisode 9, il y a un twist.
Le twist final de ce Twitch...
C'est moi qui mixe avec Tequila Tex.
C'est un twist. C'est que Mimi, à la fin de la série, à la fin de la saison 1, finit par aimer la musique.
Ouais, il reste un épisode. Mais là, on est ravis de ce petit clin d'œil musical. Quelle est la position de Dorne ? Eh bien, Dorne n'est pas dans les sept couronnes et à mon avis, Dorne est là. On vous regarde.
Si, non ?
Dorne s'est alliée aux dernières nouvelles avec la Triarchie. Elle a trahi Westeros. Enfin, elle a dit au trône de fer.
Pourquoi ils parlent encore des Rhoynar alors ?
Les Rhoynar, oh là, ça...
Les Rhoynar, c'est les Dorniens.
Oui, mais est-ce que c'est pas genre les Dorniens d'il y a longtemps, mais il y en a maintenant qui ont, et c'est mais quoi, je pense, qui sont tous un peu descendants. Il y a pas mal de descendants des Rhoynar, à Westeros. Okay. Bref. Donc ça, c'est le clin d'œil musical.
Tu n'arrêtes pas de dire King of the Andals and the Rhoynar and the machine.
Oui, mais je pense que c'est un des peuples qui était là quand ils sont devenus rois, tu vois. Bref.
Ouais, parce que
mais les nerds, si vous avez la réponse,
ils sont qu'à Dorne.
Ils sont que à Dorne.
Bah oui, parce que c'est Nymeria qui sont les Rhoynar. Les Rhoynar, c'est un peuple d'Essos qui vivent le long du fleuve The Rhoyne et qui se sont fait maltraiter par les Valériens à l'époque. Mm-hmm. À l'époque où les Valériens sont un peu l'empire romain de Essos, quoi. Et donc, ils se font persécuter par les Valériens. Et du coup, ils décident de tous se barrer. Ils font un gros exode et ils essayent de trouver... une nouvelle patrie à plusieurs endroits, notamment sur Sotorios, qui est l'Afrique de Planetos, et ils tombent sur une espèce de ville maudite, etc. Bref, il y a je sais pas combien de bateaux, 10 000 bateaux, je sais pas comment...
T'es dans le...
Parce qu'il y a une... Non, parce qu'ils
t'es trop loin
ils étaient
pour...
en train de faire
j'ai
peut-être
oublié,
une
j'ai
série.
J'ai pas révisé, tu vois.
Ils étaient en train de peut-être faire une série. Donc il y a cette reine des Rhoynar qui s'appelle Nymeria, qui guide son peuple, et ils atterrissent à Dorne, et finalement, elle va faire une alliance avec le mec de Dorne, qui est un first man, c'est un des first men,
à l'époque. First men,
ou peut-être un Andal, ou j'en sais rien. En tout cas, c'est quelqu'un qui est déjà à Westeros.
Oui.
C'est la dernière grosse migration de Westeros, les Rhoynar. Donc, en gros, elle se marie avec un Dornishman, et ils lui apprennent, comme eux, ils ont vécu les trucs d'irrigation du fleuve, ils leur apprennent tout plein de techniques pour transformer Roine en mode, pour transformer Roine en petit paradis, tu vois. En gros, c'est pour ça que Roine, pour transformer Dorne en mode petit paradis. Donc du coup, les Dornishmen, ils ont du sang et tous ces Roynards qui arrivent, ils vont, tu vois. Un peu les Roynards, c'est les Rebeux avec mélangé avec les Européens, ça fait un peu les Espagnols à la peau mate, tu vois.
Ok. Peut-être c'est comme quand on dit de Français de Navarre, tu vois.
Ouais,
c'est à l'ancienne, quoi.
Peut-être. Et donc, c'est pour moi, ils sont qu'à Dorne.
On a une question sur le chat et je dois avouer que je n'ai pas la réponse, j'ai pas révisé ma généalogie. Peut-être que tu l'as. C'est quoi la différence entre les Andal et les First Men? Quand ils disent King of the Andals and the First Men.
Ben, en fait, les First Men, c'est vraiment un peu des hommes de Cro-Magnon. En fait, ils ressemblent aux Wildlings.
C'est eux qu'on a vu, vous vous souvenez, quand il y a un gars qui a été transformé en le tout premier White Walker, avec une dague de glace dans son bide, lui c'était un First Man, je crois.
En fait, les First Men, c'est les premiers arrivés sur Westeros.
Ouais, il y avait les Children, les enfants de la forêt,
mais
qui étaient déjà là.
Ça se discute. Mais,
Les Children of the Forest.
Il y avait déjà les Children of the Forest et les géants.
Il
y avait les géants aussi.
Oui.
Voilà.
Il y a eu les First Men, donc vraiment des hommes assez rustiques.
Et à l'époque,
et après,
les Children of the Forest, ils sont sur tout le continent. Ils sont pas que dans le nord.
Non, ils sont surtout Westeros, oui.
Ouais, ils sont surtout Westeros.
Et après, il y a les Andals qui ont foutu. Eux, ils sont arrivés.
Après, les Andals arrivent
en mode colonisation. Eux.
Ouais, les Andals, ils sont arrivés de Essos, grave.
Okay, oui.
Les Andals, ils arrivent de Essos.
En gros, les Andals, c'est un peu la colonisation espagnole, quoi. L'Amérique,
ouais,
quoi. Sur les Amériques, c'est let's go, on arrive avec notre technologie, nos armes, nos systèmes.
Et donc, les First Men s'allient avec les
Children
of the Forest pour repousser les Andals, mais ça foire. Un peu.
Et est-ce que c'est là où ils ont créé les White Walkers, peut-être?
C'est les Children of the Forest qui créent les White Walkers pour se défendre contre les First Men. Dans la série.
Voilà. Bon, bref.
Mais peut-être pas. Dans les bouquins, c'est pas dit.
Oui, dans les bouquins, c'est du deep lore, mais j'ai ok. On fera une piqûre de rappel au moment où ça.
Peut-être que ça c'est
moment,
une invention
ça
de Benioff et Weiss.
Ouais. Qui était les showrunners de Game of Thrones. Ouais. Anyway.
Mais en tout cas, les Andals. Ils sont sur toute la. C'est eux qui ramènent la religion des. Ils font une sorte de colonisation aussi pour genre vous êtes pas civilisés. On va vous apprendre c'est quoi la religion. Il y a les sept.
C'est vraiment les colons espagnols qui ramènent le christianisme quoi.
Ouais.
Ok, je vois. Donc on revient. Alors on a fait une petite digression. On revient au couronnement de Aegon II. Aegon deuxième du nom. Qui, du coup, la prophétie de Otto s'est réalisée, puisque quand Aegon était tout bébé à la chasse, il voulait fêter son deuxième anniversaire en proclamant Aegon, second of his name, et il avait raison. Pourquoi c'est Criston qui couronne Aegon? C'est une question qu'on m'a beaucoup posée, et en gros, il y avait pas mal de questions autour des rituels de ce couronnement, est-ce que c'est tout le temps comme ça et tout. Alors, c'est pas tout le temps comme ça, dans le sens où... Le lieu, enfin, c'est un couronnement précipité, quoi. C'est pas un truc, normalement, ça peut se prévoir, genre, des mois à l'avance, avec plein de nobles invités et tout. Là, on est clairement sur un couronnement atypique et très précipité de par ces trucs politiques. Ça se passe dans le Dragon Pit parce que c'est là où on peut faire rentrer le plus de monde et que c'est important qu'il y ait le plus de monde qui... En fait, Misaria, elle dit à Otto, on a le pouvoir que qu'autrui veut bien nous donner. Et en gros, c'est ça, quoi. C'est s'il y a assez de gens qui croient que t'es le roi. Mmh. Et du coup, bah, plus il y a de gens qui vont voir Aegon être couronné, avoir les symboles royaux, la couronne, l'épée, la dague, plus ils vont l'accepter. Et visiblement,
comme il n'y a pas Internet à l'époque.
Bah oui, ils n'ont même pas Google Images ou Twitter pour leur dire « Attention, on régnera et tout ». Ils n'ont pas des wokistes pour faire des tweets sur l'égalité. Donc ça, c'est important, que ça soit à Fos Dragon. Le fait que ça soit dans la religion des sept et qu'il y a un septon qui oint finalement
septon,
le roi,
septon.
Ça c'est normal, c'est ça fait partie du rituel et ça faisait partie du deal qu'ont trouvé les Targaryens avec la foi de continuer à être validés par la foi, donc les sept, la religion majoritaire, tout en continuant leur inceste avec leur petite exception culturelle. Du coup oui, le couronnement, les mariages etc. royaux doivent être validés par la foi, donc c'est normal qu'il y ait un septon qui fasse du coup sept gestes sur le front de Aegon au nom des sept divinités qui représentent cette religion.
Ah ouais, il y a aussi, je voudrais parler d'une phase qui est drôle, enfin qui est abusée et genre mauvaise foi to the max.
Dis-moi,
par rapport à Patriarchal. un moment, il parle de meuf avec Eamon, oui. Je crois. Et lui
quand
dit,
ils vont au bordel.
Et lui dit « Every woman is an image of the mother to ouais. be respected. »
Le gars, genre, il traitait Rhaenyra de
quand t'as traité Rhaenyra de cunt,
wesh.
Tu l'as respecté ou pas?
Et
alors,
regarde Alicent
maintenant
avec
tu
les
donnes
yeux
des
quand
leçons
même qui cryptiquent, quoi.
Qu'est-ce qui t'arrive?
Non, mais c'est vraiment, tu sais, ce gars, tu sais qu'il est misogyne, mais il fait grave semblant de te respecter parce ouais, que, genre, ouais. Le féminin sacré, t'es là, ah ouais. Ouais, Christelle, on le déteste.
Toutes des salopes sauf ma mère.
Ouais.
The mother, parmi les
toutes
sept.
Toutes les femmes sont respectables sauf celles qui sauf se respectent the... pas, auquel cas, c'est des salopes. Et ouais, on peut ouais. vraiment avoir envie de les cogner.
Ouais,
d'accord. C'est donc ça le féminisme, merci.
Et, il est
ouais. ouais, il adore la femme. Il respecte la femme, comme dit Doudou. Pas les femmes, genre on n'est pas des personnes. C'est la femme en tant que concept, quoi. Et donc pourquoi c'est Kristen qui couronne Aegon? Alors déjà, Kristen a peut-être une forme de promotion avec le.
Non, si, il a été
RTT
promu.
De...
Si, si, 100%.
Ça y est, il est Lord
ouais,
Commandant de la.
Il est Lord Commandant parce que l'autre s'est barré. Et donc okay. ils en profitent pour dire, ok, très bien, c'est Kristen Cole. Boom.
Ok, bah oui, ça tombe ouais. bien. Mais j'avais pas en tête que c'était le Lord Commandant qui si. Couronne le roi, tu vois, parce si. Que c'est plutôt un rôle quand même hyper noble. Mais du coup, alors, c'est en fait, c'est pareil dans le bouquin. C'est Lord, c'est Kristen Cole qui pose la couronne sur la tête de Aegon. Mais dans le bouquin, Kristen Cole est surnommé après cette journée le Kingmaker, donc le faiseur de roi, pour deux raisons. La première, c'est que c'est lui qui a littéralement couronné Aegon. Et la deuxième, et ça, ils l'ont enlevé de la série, et du coup, j'étais là, pourquoi ? C'est que c'est lui qui convainc Aegon d'être ok avec le fait d'être roi, puisque quand il le récupère, en gros, il lui rappelle, il le convainc que Rhaenyra va le buter et buter ses frères et sœurs si jamais elle devient reine. Donc il est vraiment, il lui redit le truc de Otto Hightower, de c'est soit tu deviens roi, soit Rhaenyra elle vous bute tous, c'est eux ou vous, tu vois, enfin c'est eux ou nous. Et du coup, c'est ça qui convainc Aegon d'être ok avec le fait d'être roi, ce qui vaut à Kristen le surnom du coup. Doublement validé de Kingmaker. Et là, ils ont enlevé cette partie où il le convainc, ce qui est dommage parce qu'en soi, il aurait pu Kristen parler à Aegon, quoi. On avait le temps de faire cette scène de 3 minutes. Et c'est juste le Kingmaker parce qu'il lui pose la couronne dessus. Mais pourquoi c'est lui qui a le droit de faire ça? Parce que c'est le Lord Commandant de la Garde Royale, ce qui est quand même BG. Je les trouve vraiment fascinants, ces vers. On devine qu'ils disparaissent. J'aimerais tellement qu'on voit plus de choses sur Old Town. Bah la famille, enfin Hightower et tout, n'est pas une famille qui a disparu dans Game of Thrones par exemple. Hein, ils existent toujours. Il y a quelques familles qui ont disparu, mais pas les Hightower.
Il y a un enfant qui a Old Town. C'est lequel?
Oui, alors oui, plot twist. Je j'aurais aimé vous en parler avant, mais je pouvais pas parce que c'était pas confirmé. En gros, Viserys et Alicent ont eu Aegon, Elena, Aemon et plot twist, il y en a un quatrième depuis
des années.
C'est Joffrey. Non, c'est Daeron, il s'appelle. Mmh. Oui, Daeron. Geoffrey, c'est le tout petit de Lenor et Rhaenyra. Mmh. Celui dont elle a accouché
ah oui.
dans la série.
Donc là, on parle
lui,
des enfants
Geoffrey.
De Daemon.
Oui, okay. Non, on parle des enfants de Viserys et Alicent. Daeron, c'est un quatrième petit blondiné, là, c'est chez les Verts.
Ah, d'accord. Okay.
Viserys et Alicent ont eu un quatrième fils qui, ouais. actuellement, est à Old Town, pupille de la famille Hightower, dont c'est, du coup, il est de cette famille, hein, puisque Alicent, c'est sa mère. Et c'est George R. R. Martin qui a confirmé qu'il existait dans la série via un random post de blog où il parlait de House of the Dragon et de comment ils ont adapté des trucs. Et notamment, il a dit il y a eu des choses pour lesquelles on a dû sacrifier du temps. Notamment, on n'avait pas le temps de mentionner Daeron Targaryen qui, bien sûr, est là et existe. Juste actuellement, il est en train d'étudier à Old Town. Et j'étais là... Ah oui, donc Alicent, elle a juste un quatrième gosse, quoi. Mm-hmm. Et les autres, tous ces autres qui ont quand même des dynamiques assez spécifiques entre... Aegon et Elena qui sont mariés mais qui s'aiment pas, Elena et Aemond qui sont pas mariés mais ils s'aiment bien un peu, Aemond qui déteste Aegon et tout. En fait, il y a un quatrième gamin quelque part qui est là, qui est potentiellement héritier du trône, genre si les deux autres ouais. meurent, il se passe des choses quoi. Il est à Old Town et il existe et il s'appelle Daeron. Voilà, vous verrez. Et il y a effectivement le bâtard de Aegon dans le Fight Club des gosses dont on a parlé. Donc voilà pourquoi c'est Kristen Cole qui met la couronne sur la tête d'Aegon. Et ensuite, on en arrive au dernier moment de cet épisode. Rhaenys et son dragon.
Donc Rhaenys s'échappe vite fait, va descendre dans les catacombes
de fausses dragons, du dragon pit. Parce qu'en gros, c'est perché sur une colline
dragon,
et du coup, ils ont creusé
dragon,
la colline. On en plus
les mots français sont pétés, je trouve. Alors que
ouais,
dragon
après,
pit,
dragon
c'est cool.
Pit, c'est vraiment littéralement juste le trou des dragons, quoi.
Ouais, c'est cool.
C'est visiblement, cool. Elle met la main sans trop de problèmes sur Maelys.
Fausse dragon, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de regarder les visiteurs.
Ouais, il y a un côté latrine aussi, tu vois. Ouais. Ça fait un peu fausse commune aussi, ouais, qui est pas très fun.
En tout cas, voilà, elle va chercher son dragon, qui est méga bien designé, qui a une petite couronne de cornes un peu là.
Ah, j'ai pas fait gaffe. Si, il a un peu une couronne.
Ouais. Ouais, pas une couronne, mais fort.
Parce
vois,
qu'elle c'est la reine. The
Red Queen.
Pas, tu
elle,
vois,
ouais. elle, c'est Meleis le nom du dragon.
Oui.
Et elle a ouais, elle a genre des piques en mode couronne, ouais, un peu.
Ouais, et du coup, elle décide de... Donc, elle prend son dragon. Jusque-là, pourquoi pas, tu vois. Jusqu'ici, je suis là. Ok, Rhaenys, elle s'est esquivée, elle récupère son dragon, elle se barre. Elle va prévenir Rhaenyra. Pourquoi pas. On est bien. Pourquoi pas. Mais non, elle décide de pas faire ça et de traverser le ce qui pourrait aller le plafond, du coup, le sol de la salle, de tuer plein d'innocents, de faire un gros coup de pression.
Infirmerie.
Bataille... Pardon. D'envoyer plein d'innocents à l'infirmerie. De faire une bataille de regards avec Alicent. Et de partir. Bon.
En fait, pourquoi est-ce qu'elle dit pas Dracarys et pourquoi est-ce qu'elle les crame pas? C'est ça la grande question.
Ouais.
C'est vrai que.
Moi, j'ai la réponse des showrunners.
Mauvais
move. Mais toi, tu l'interprètes.
Mauvais move. Moi, je l'interprète comme c'est quand même la famille royale. Oui. C'est quand même. Elle a quand même été. Elle a. Lors du. Tu vois, elle a quand même un peu de respect. En fait, elle a pas envie d'être une Kingslayer, en fait. Tout simplement.
Tout
parce
à
que
fait.
Ça.
C'est sa famille, elle, quoi.
Tu vois.
Viserys c'était son cousin, donc
ouais,
les enfants de
ouais.
Viserys ils sont de
ouais,
sa famille
ça
quand
reste
même
sa
quoi.
Famille exactement et surtout elle comprend que elle a un peu de pitié pour Alicent.
Ok, je pense que alors moi je l'ai lu.
Si on pouvait un peu mieux diriger le feu des dragons, peut-être qu'elle aurait pu juste buter Aegon.
Si elle avait pu être extrêmement ciblée, peut-être
ouais.
qu'elle aurait fait une frappe chirurgicale.
Juste buter Aegon.
Qui aurait
pouf,
mille fois.
Le reste ça va.
Ouais, alors moi, je l'ai donc avant de lire l'interprétation des showrunners, je l'ai lu comme c'est pas sa guerre déjà, parce qu'en vrai Rhaenys, ce qu'elle dit depuis un moment, c'est que à part pour ses petites filles, elle a pas trop envie d'être là et que elle veut pas effectivement tuer sa famille. Et j'ai senti qu'il y avait un truc maternel aussi, parce que Alicent, au début, elle est protégée par Criston Cole, et il y a Aegon qui est tout seul devant. Et en fait, Alicent, elle sort de derrière Criston Cole et elle lui dit « va protéger Elena ». Donc il y a Aemond qui est là, mais lui, il a une épée, il est fort en bagarre, donc elle dit à Criston « va protéger Elena ». Et elle se met devant Aegon, et elle protège Aegon, et je me suis dit « est-ce qu'ils vont nous faire un truc où c'est une mère qui voit une mère protéger son enfant et qui du coup veut pas y aller ?» Un peu. Du coup, la réponse, c'est un peu, puisque les showrunners disent que, en gros, elle voulait pas faire subir ça à une autre mère, la forcer à... Enfin, elle voulait pas tuer les enfants d'une mère qui est devant elle, en train de les protéger. Que,
elle aurait tué la mère avec.
En gros, c'est son... Oui, elle aurait tué la mère avec, mais bon, tu sais que tu l'as fait quand même, tu vois. Il y a un truc de karma et tout, et il y a un truc de... Tu vis avec, quand même. Et que c'est, en gros, c'est une décision morale qu'elle a prise de pas les tuer. Donc, effectivement, là, ça rejoint ce qu'on disait aussi sur... Bah, c'est sa famille... C'est des gens qui...
Elle continue à avoir le moral high ground.
Oui, sauf
elle
qu'elle vient de tuer
la...
plein de pays ou quoi.
Ouais,
quand même. C'est ça aussi, tu vois. Elle vient d'envoyer prendre du Doliprane. Pas mal d'habitants de Kingsland.
Deux Dafalgan. T'es un grand garçon, tu peux prendre deux Dafalgan d'un coup.
Ah ouais, des Dafalgan vitaminés, là. Hein. C'est... Ouais, ouais.
Codéinés.
Ouais, bien codéinés. Et... Je veux bien que les Targaryens ils s'en foutent du peuple et que les nobles ils s'en foutent du peuple et tout, mais il y a un peu une différence entre s'en foutre et vraiment se balader. C'est comme si elle leur roulait dessus en tank et qu'elle s'en battait la race, quoi. Donc j'étais pas trop fan de ça, et surtout les showrunners le présentent vraiment comme un moment cool et héroïque, tu vois. Ils sont vraiment en mode, à un moment on s'est dit que ce serait trop cool que Rhaenys traverse le sol, enfin explose
moi,
le plafond
du,
sur
c'est
son
du,
dragon.
Ouais, pour moi c'est
j'étais
du clickbait.
Là...
C'est du clickbait.
Cool, c'est pas une bonne écriture, quoi.
Ouais, c'est pas de la méga écriture. Pour moi, c'est pareil. C'est un peu pourri. C'est un peu du genre, il fallait mettre un dragon dans cet épisode. Allez, il y avait pas eu de dragon dans l'épisode. Allez.
Ouais,
bah déjà qu'il y a pas Daemon. Il y a pas Rhaenyra. Ouais, on va en mettre un dragon.
Là, quand même. Les gens, ils vont se désabonner avant le final. C'est sûr.
Ouais.
C'est
ils
sûr.
Vont, ouais, ils vont se désabonner de...
Donc ouais, il le présente un
HBO
peu trop
Max.
Comme un moment trop cool pour Rhaenys, la girl boss. Et bah par exemple, dans le behind the episode, donc le débrief de l'épisode qu'il publie juste après, il parle à aucun moment du fait qu'elle a tué des civils. C'est pas un sujet.
Parce qu'ils
sont
à l'infirmerie.
Cool. Qu'elle a envoyé à l'infirmerie des civils.
Elle les a pas tués. Pour...
Ils sont là,
je pense que pour la série,
cool,
c'est suspension of disbelief. Elle les a pas tués.
Voilà, Misaria n'est pas morte et les civils n'ont pas été tués. On verra s'il y a un compteur des victimes de ce moment. Moi, j'ai un vrai problème avec cette scène qui est que, en fait, elle est je suis vraiment une grosse nerd, quoi. Enfin, quand je dis ça, j'ai l'impression d'être une grosse nerd, mais elle est pas réaliste par rapport à ce qu'on sait de la construction de Fausse Dragon, puisque on sait très bien, everybody knows, que chaque grotte de dragon dans le Dragon Pit a une sortie extérieure qui donne du coup sur l'air libre et une sortie intérieure qui donne sur, bah, quand on a vu le petit dragon sortir là pour le cours de dragon, c'est là que ça donne. Et en fait, il y a pas de, et on l'a vu dans la série qu'il y a les deux, il y a pas de raison que Rhaenys qui est en danger, elle prenne pas juste la sortie la plus directe pour se barrer avec son dragon. Et je suis là, mais pourquoi elle vient débarquer?
Parce qu'elle met une pression.
Non, mais d'accord, mais le coup de pression, tu peux le mettre de dehors, tu vois, je sais, enfin, en fait, c'est complètement con. Et où est-ce qu'elle a trouvé son armure et tout? J'étais là.
Ouais. Ah oui, ça, le coup de l'armure,
y a deux, trois
trucs. Very plot convenient.
Voilà, on n'est pas très loin de Daenerys avait oublié que Euron Greyjoy existait en termes de justification pourquoi c'est cool. Et je pense que c'était principalement parce que c'est une scène cool. Et comme t'as dit, il faut un dragon dans cet épisode. Et aussi, c'est l'épisode 9. Et l'épisode 9, on s'attend toujours à un truc de fou. Et si c'est juste, on cherche Aegon dans la ville et on parlemente un peu, les gens vont être fâchés, tu vois. Alors que moi, je trouvais
Je pense que les normies qui matent là, ils disent « What? Truc de ouf! À la fin, il y a un dragon !»
Mais oui, il y a plein de gens. Et même moi, en vrai, au début, je regarde et je suis là « Oh, Rhaenys, je l'aime trop. Meleys, je l'aime trop, le dragon et tout. » Et au bout de... par contre, au bout de deux secondes, je suis là « Mais attends. » Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Et pourquoi elle est là? Et pourquoi elle est pas passée par la porte arrière? Mais parce que moi, je sais qu'il y a une porte arrière. Parce que je suis une grosse nerd. Donc ouais, c'est un peu gratos. Je veux pas vous... Coucou, Lendel! Welcome! Et oui, t'es qui dans la place? Tous les mardis, il y a Tequila Tex qui vient débriefer House of the Dragon sur mon canapé. Quel plaisir. On adore notre vie. Donc voilà pourquoi, pourquoi Rhaenys ne fait pas ça. Et après... Alors, c'est toujours facile de faire du yaka faucon, à la fin, une fois que c'est passé. Mais j'ai vu suggérer sur Internet une fin un peu choc de cet épisode qui aurait pu peut-être amener cet effet dragon sans être complètement atypique, enfin complètement incohérente, pardon. Ce serait que Rhaenys arrive...
Ce serait que Alicent et Rhaenyra se fassent un bisou.
À dos de dragon. Et après, elles s'envolent ensemble. Elles mangent du gâteau.
À pentos.
Bien sûr. Non, ce serait que Rhaenys, disons, elle sort avec son dragon, mais pas par l'intérieur, genre elle sort, et elle vient mettre un coup de pression, tu vois. Pour le coup, elle leur met, elle vient volter autour de, du Dragon Pit et tout, et là, peut-être que Aegon, il se souvient qu'il a un dragon, ou que n'importe lequel de ces fucking Targaryens s'en souvient, et qu'on a une première esquisse de bataille de dragon au-dessus de, du couronnement d'Aegon, ou alors Aemond, il prend Vhagar, tu vois, il est là, tu sors ton dragon, je sors le mien, et Rhaenys, elle fait, oula, c'est le gros dragon, je rentre, tu vois, je vais pas me bagarrer. Donc on aurait pu avoir le côté dragon.
T'as fait deux dragons, ça fait deux fois le
mais
budget.
Ça fait deux fois plus cher, en effet. Donc, ok, why not? Et ensuite, ah oui, peut-être pour finir, poser des questions s'il vous en reste, mais normalement on a pas mal fait le tour. J'ai fait la liste de qui a quel dragon dans chaque camp, pour voir un peu on en est où,
vas-y,
en termes de les
dis-nous
forces
en termes
en présence.
En termes de les forces.
Alors, chez les Greens...
Ça, je pense que ça va être soulevé dès l'épisode prochain.
Il y a moyen. Chez les Greens, on a Sunfire, qui est le dragon de Aegon. On a Dreamfire, qui est le dragon de Elena, qui a un dragon, on le sait. Alors, il y a ce gamin d'Aeron dont on n'a pas parlé, qu'on n'a pas vu. Il a peut-être un dragon, mais on va partir du principe qu'on s'en fout parce qu'on va pas le voir dans cette saison, je pense. Et on a bien sûr Vhagar, le dragon de Aemond, qui compte pour deux, honnêtement. Donc en vrai, chez les Greens, on en a deux...
Dont le plus gros.
Enfin, on en a trois.
Dont le plus gros.
Dont un qui coûte deux. Donc, mais on en a trois, quoi. Ce qui est pas énorme. Chez les Blacks, donc chez la team Rhaenyra, on a Syrax, le dragon de Rhaenyra. Caraxes, le dragon de Daemon, qui est aussi un des plus gros et des plus vieux. Moondancer, le dragon de Baela, la fille de Lena et Daemon. Meleys, le dragon de Rhaenys. En tout cas, elle vient de partir avec. Vermax, le dragon de Jaxx. Dans les bouquins.
Vermax,
le dragon de Jace. On a toujours l'air un peu con quand on lit des noms de dragons pendant plus de deux minutes. Alors, on sait pas si Luke a un dragon. Le Luce Velaryon, là, le petit qui a éborgné Aemond.
Si, il en a un.
En tout cas, non, dans le bouquin, il en a un. Et je pense que c'est comme
Vermax, c'est le jeune qu'on voit à un moment.
Ouais, lui, c'est celui de Jace. Et son petit frère, a priori, a un dragon aussi qui s'appelle Arax, qu'on n'a pas encore vu, mais bon. Et il y a le point d'interrogation Seasmoke, le dragon de Lenor. Uh-huh. On ne sait pas ce qui, mais bon, a priori, il peut pas avoir de nouveaux riders, mais il est quand même quelque part en liberté. Et Syrax a eu trois œufs qu'on a vu Daemon récupérer. Alors ça, pour le coup, c'est des petits. Mais du coup, comme
il y en a un autre,
il y en a un. Alors attends, dis-moi juste avant que j'oublie. Donc Syrax a eu trois œufs et Daemon a deux enfants avec Rhaenyra, deux petits blondinés, un petit Aegon et un petit Viserys. Oui, il y a un troisième Aegon, on est ravis. Et elle est enceinte du troisième. Donc, il y a trois œufs, elle a déjà deux enfants avec Daemon, elle en a un troisième en route. voilà, a priori, ces œufs, on sait vers qui vont être destinés, mais à voir s'ils éclosent ou pas, après, ça, c'est autre chose. J'ai oublié qui comme dragon ?
Attends, je check.
Ouais, ouais, dis-moi. Il est vieux de ouf, Vagar, plus très agile. Alors, plus très agile, mais ouais, c'est un immeuble qui vole quand même. Hein.
En fait, c'est un autre dragon qui est vivant et qui est...
Oui, il y en a un qui est... y en a qui sont sauvages, en effet.
Ouais, mais il est pas sauvage, c'est... Lui, il est semi-sauvage. Il a... En fait, c'était le dragon de Jaehaerys.
Oui, il avait... Ok, c'est comme...
C'est Vermithor.
D'accord. Bah, comme Seasmoke, du coup. Il a un...
Ouais.
Ah bah non, parce que Seasmoke, il est pas mort. Bref, c'est un dragon qui avait un cavalier.
Mais il est pas mort,
qui est l'ancien roi. Le roi est mort, mais pas le dragon. Personne d'autre ne l'a
claim.
Du coup, c'est un dragon qui, voilà, qui est libre, mais et il est où?
Il est à Dragon.
Il est à Dragonstone. Ok. Donc il est chez les Blacks. Donc on est à trois dragons, dont un très gros pour la Team Alicent.
Et un, c'est le deuxième plus gros après Vagar.
Ok, pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dragons chez la Team Rhaenyra, plus 3 œufs, plus. Le point d'interrogation, c'est Smoke. Donc, on est pas mal. Alors, Viserys, il avait un dragon. Viserys, il a chevauché Balerion, le plus grand dragon de la conquête d'Aegon et le plus vieux des dragons qui existaient à ce moment-là. Donc, bravo à lui. Et après...
Il est mort et il en a jamais eu d'autre.
Il l'a chevauché vraiment, il a fait un tour de...
Il y a un délire de...
Un tour,
Viserys a peur des dragons.
Moi, je pense Viserys, il avait très peur des dragons, même. Ok. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, j'avais une question de Doudou qui est pas mauvaise, mais j'ai pas vraiment la réponse, donc on va en parler. Et juste avant ça, je vous ai dit au début de l'épisode, des fois vous croyez des trucs et je sais pas d'où ça vient. Il y a plusieurs personnes qui pensaient que le plan de Otto, c'était de trouver Aegon pour le tuer et de mettre Aemond sur le trône à sa place. Je sais pas d'où ça vous vient, mais non, c'était pas ça le plan de Otto. Ok. Et ensuite, j'avais une question de Doudou
qui était... J'ai cru que t'allais me dire, et j'ai trouvé d'où ça venait.
Non, c'est j'aimerais bien.
Quelqu'un qui a dit ça.
J'aurais pu demander aux gens. Mais non, mais je sais pas pourquoi, des fois, qu'est-ce qui vous a fait penser que...
Des fois, les gens, ils sont trop excités. Ils ont trop envie que ça ait du plus.
Mais en plus, du coup, Aemond, il était dans la team Alicent.
Si vous êtes
dans
super excité et que vous avez envie qu'il y ait du plus, il y a déjà assez de lore dans le travail de George R. R. Martin pour que vous en ayez, vous soyez satisfait. Donc, allez lire des choses, allez lire The World of Ice and Fire, parce qu'il y a assez de choses.
Oh oui, il y a des hommes poissons.
Vous n'avez pas besoin d'en inventer tellement George R. R. Martin s'en est chargé pour vous.
Carrément. Qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi Otto voulait trouver Aegon avant Alicent? On en a parlé parce qu'il voulait lui dire de tuer, de faire tuer Rhaenyra. C'était quoi la, ah oui, une question de Doudou qui est pas mauvaise et à laquelle j'ai pas directement la réponse, c'est, elle m'a dit, en gros, on voit que Otto, il bosse avec Misaria pour espionner à King's Landing. On voit que Alicent, elle bosse avec Larys pour faire des bails à King's Landing. Comment ça se fait que Daemon et Rhaenyra, qui sont pas la moitié d'un con, ils ont pas des informateurs à King's Landing? En plus, on sait que Daemon, il a connu Misaria. Comment ça se fait que eux, ils ont pas des espions qui vont les informer quand il se passe un truc genre le roi est mort, tu vois? Ou machin se fait couronner. Est-ce qu'on sait si, et notamment Daemon, est-ce qu'on sait s'il a des espions, machin? Qu'est-ce que t'en dis, toi?
A priori, c'est Misaria, son...
Bah alors là, elle bosse pas pour réseau. Lui, pour le moment. Pas qu'on sache, en tout cas. Elle bosse en Indé. Quand il lui a fait la Zumba à Dragonstone, où il l'a mise en danger, elle, parce qu'il s'en foutait qu'elle, elle ait moins de pouvoir que lui, elle s'est barrée. Mm-hmm. Et a priori, elle est papote avec lui. Donc, il a pas...
Elle l'a quand même sauvé, quand il était en train de ken...
Ouais, ça fait... Oui. Ça fait 12 ans. Mais oui.
Ouais.
Quand il a failli pécho Rhaenyra dans le bordel et qu'il était reb, c'est elle qui l'a récupéré.
Moi, je sais pas, ils avaient l'air fâchés. Je pense qu'ils en ont, mais il faut quand même envoyer un corbeau, tu vois.
Oui.
Le temps que l'information, là, si, on parle de deux jours. C'est...
Ouais, ça va
le
très vite.
Que l'information...
Peut-être que c'est pour ça qu'ils ont raccourci par rapport au bouquin, c'est que t'es là. En fait, une semaine, ils auront l'info. Dragonstone, c'est vraiment pas très loin de King's Landing. Donc, ils pourraient avoir l'info. Et on sait quand même que Daemon a une partie des infos de King's Landing, puisque dans l'épisode où on comprend que les enfants de Rhaenyra sont des bâtards de Arwen Strong, il est avec sa femme Lena Velaryon sur les toits de Pentos, et elle lui dit, on a reçu un corbeau, Rhaenyra a eu un troisième enfant, et il lui dit, est-ce qu'il marque toujours une ressemblance inhabituelle ainsi que fortuite avec le chef de la garde royale? Donc il sait les bails, il sait que Rhaenyra a des gamins qui sont pas ceux de Lenor, il sait de qui ils sont, donc il a quand même des gens qui lui racontent les naninana de King's Landing. De là avoir des espions, on ne sait pas, on verra.
Zumba,
bien sûr. Zumba, j'ai toujours pas d'émoji Zumba,
ou les naninana.
Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le réseau du ver blanc va être réutilisé par l'oncle des enfants de Rhaenyra? Non mais Nimbrin, si on commence à parler de l'oncle des enfants de machin, c'est qui l'oncle des enfants de Rhaenyra? Attends, Les enfants, on réunira déjà. Là, on a deux pôles, donc c'est chiant.
J'en ai marre de vous.
On verra dans le prochain épisode. C'est la fin. J'ai répondu à tout. Oui.
Moi, je voudrais faire un dernier truc avant qu'on se quitte.
Dis-moi.
Je voudrais qu'on spécule sur ce dernier épisode qui arrive.
Qu'est-ce qui va se passer ? Non, pas qu'est-ce qui va se passer parce qu'on le sait.
Moi, ce que j'aimerais, ce serait qu'on dise, parce que j'ai vu quelqu'un qui avait fait une vidéo à ce sujet et j'ai trouvé ça intéressant. On se sort un peu des bouquins.
Ouais.
On se sort un peu de la logique.
Ouais.
On se sort un peu et on se
on et se on met des sirènes.
Non. Et on se met un peu en position de HBO Max.
Ok.
Qu'est-ce qu'on fait pour parce que là c'est dramatique ce qui se passe avec Rings of Power, qui est une série très mal écrite, c'est mon avis, mais je pense que c'est un avis qui est partagé par assez de monde pour qu'on puisse déterminer que c'est une série qui est mal écrite. On peut l'aimer pour d'autres raisons, en fait.
Oui.
Mais c'est une série qui est très mal écrite.
Okay.
Et qui est très lente.
Okay.
Et que même les gens qui l'aiment, l'aiment peut-être parce qu'elle est lente.
L'aiment malgré.
Peut-être. Malgré, ouais. Qui est en train de faire d'être plus vu que House of the Dragon.
Ça marche mieux ?
A priori, le problème, c'est qu'on n'a pas les chiffres de HBO.
Là,
HBO.
C'est ça, le truc.
On n'a que les chiffres de HBO Max. Mais si on compte que les chiffres de HBO Max, ils se font décalquer la gueule.
Mais après, il y a vachement plus de gens qui payent Prime que de gens, ne serait-ce que pour en fait tous les trucs Amazon autour et Twitch et
exactement.
Tout, que de gens qui ont...
Donc pour l'instant, ils se font un peu latter.
HBO,
donc HBO, ils ont besoin de frapper fort sur ce dernier épisode. Ce qu'on sait aussi, c'est que l'épisode ne sera pas envoyé à la presse, contrairement à tous les autres épisodes.
Personne n'a vu l'épisode.
Personne n'a vu, personne ne le verra mercredi, personne ne le verra.
C'est dimanche pour tout.
Il y aura pas de screeners. C'est dimanche pour tout le monde. Donc on imagine qu'il va y avoir un méga twist, un truc qui n'est même pas dans les livres, tu vois, qui va se passer. Donc qu'est-ce que ça pourrait être à part un caméo de quelqu'un d'important? Et qu'est-ce qui serait
T'es en train d'aligner les pièces pour que ça rentre dans ce que tu veux.
Mais
je viens de te voir arriver.
C'est faux.
Ah, c'est là qu'on va.
Mais non, c'est faux. C'est juste que ce
mais
serait.
Souviens-toi pour Game of Thrones, on était sûr qu'il y avait que ça qui marchait.
Mais non, mais ce serait common sense. Non, mais ce serait common sense. Mais non, sur Game of Thrones, on était sûr que L égale J. Et ça s'est fait.
Mais il y a plein de trucs dans la série. Genre, vraiment, Lady Stoneheart, on a cru pendant deux saisons qu'elle allait arriver, frère.
Non.
Moi, j'y ai cru.
Non, il disait que non. Bref.
Moi, je disais
en tout cas,
showrunner à l'époque.
Mais moi, je comprends pourquoi il n'y a pas Lady Stoneheart. Je comprends pourquoi il n'y a pas Lady Stoneheart dans Game of Thrones. Parce que justement, d'un point de vue business, tu fais pas deux fois le même coup de ressusciter quelqu'un.
Oui.
Ça amoindrit surtout
quand ils ressuscitent pas pareil, quoi. Dans le bouquin Game of Thrones, Catelyn Stark ressuscite après le Red Wedding. Elle se fait ressusciter par, vous vous souvenez, la Brotherhood Without Banners, la fraternité.
Beric Dondarrion.
Beric Dondarrion, le gars qui se fait ressusciter par R'hllor, le dieu de Mélisandre. Bref. Catelyn Stark, dans le bouquin, elle se fait ressusciter par ces gars-là. Sauf qu'elle s'est fait égorger, elle est restée un peu longtemps dans l'eau.
Donc elle peut pas parler.
Elle peut pas parler, elle est un peu semi-zombie, mais avec quand même, genre, une conscience et des intentions, mais pas très sympa. Mmh. Et elle veut que se venger des gens qui ont fait le Red Wedding. Donc elle fait un genre de guérilla, où elle bute les Frey et les hommes des Frey pendant des années après, en tant que zombie, quoi. Alors que Jon Snow, alors on sait pas dans le bouquin, parce que dans le bouquin, Jon Snow est toujours mort, lol. Mais dans la série, quand il ressuscite, il est normal. Il est littéralement Jon Snow. Bon, donc, après, peut-être que c'est parce qu'il a pas de personnalité, donc ça peut pas changer, mais.
Donc, du coup,
Sorry, Snow,
Slender,
je t'aime, Johnny
Slender,
Boy.
Le Slender est sans fin. Qu'est-ce qu'il pourrait faire de mieux pour faire parler? Il va y avoir une petite bataille de dragons, ça c'est sûr. On s'y attend, pas besoin de pas donner de screener. Tu crois vraiment que genre...
Ah ok, t'es là en mode, qu'est-ce qu'ils vont trouver pour choquer les gens qui savent ce qui
exactement.
Va se passer,
ok. Qu'est-ce qu'ils vont trouver?
Non mais moi j'adore cette... Donc la théorie c'est
donc
que...
la théorie c'est qu'ils vont ramener quelqu'un de Game of Thrones pour faire du fanservice. On a besoin de fanservice.
Mais Tequila Tex, il faudrait quelqu'un de très vieux puisqu'on
est
200 ans.
Non mais Mandalorian, ils nous mettent... désolé, je spoil Mandalorian deux secondes, vous permettez? Mandalorian, ils nous mettent Luke Skywalker. Tu vois ce que je veux dire? S'ils veulent vraiment niquer Twitter, vraiment tout niquer. Parce qu'on est quand même en 2022.
Bah alors en vrai, ils mettent Luke Skywalker, ça marche aussi. Avec la capucha. Et en fait, en dessous, c'est Luke Skywalker.
Mais tu vois,
Bran Stark qui se pointe dans les pensées d'Aegon.
Ça peut être Bran Stark.
En vrai.
Hein.
Putain, en vrai, c'est à la fin de l'épisode prochain. T'as Bran Stark dans la tête de quelqu'un, je casse un truc, je pense.
Ça
je
peut être...
déteste Bran.
Ça peut être. Ah, moi j'adore. Ça peut être un Bran Stark. Ça peut être deux. Le Night King.
Ouais.
Puisqu'il est déjà là.
Bah ouais. Bah ouais, on pense qu'il est un peu vieux quand même, le gars.
Donc s'il nous casse les couilles avec le Song of Ice and Fire, pourquoi est-ce qu'il nous montrerait pas un Night King? Ça peut être, ça serait narrativement bizarre, mais s'il arrive à le
Syrio Forel.
Syrio Forel, le mec qui apprend à Arya à faire les scrims là.
Dans la saison 1 et qui ressemble à José Garcia, ouais. Et que j'ai toujours cru qu'il allait revenir.
Il y a des gens qui disent Roose Bolton est un vampire aussi.
J'adore, ça c'est ma théorie préférée all time
Roose
de Game
Bolton
of Thrones, c'est que le père de Ramsay Bolton est un vampire immortel qui écorche ses fils pour prendre leur peau et faire des rituels et qu'il est là depuis hyper longtemps. Voilà, et que c'est pour ça qu'il traîne avec Ramsay. J'adore.
Mélisandre, Alice Rivers, ça on en a déjà fait le tour la semaine précédente. Donc il y a un personnage qui s'appelle Alice Rivers qui a priori n'arrivera pas avant la saison 2. On verra, peut-être qu'ils vont tout compresser pour qu'elle arrive déjà la saison prochaine.
Épisode,
ça serait
beaucoup
en un épisode. Mais Alice Rivers, donc Mélisandre sous forme d'Alice Rivers. Mais Mélisandre peut aussi peut-être arriver sous la forme de n'importe qui, en vrai.
Imagine, Larry s'y fait une Kaiser Soze et tu sais, il arrête de boiter. Genre, il remet son pied droit petit à petit. Et en fait, c'était pas du tout Larry's Club
c'est
Foot. Il a pas de handicap. Il gère ça. Il fait semblant d'avoir un handicap depuis toujours. Et là, il fait du parcours. Et il part en parcours.
Tu vois, il peut y avoir un truc. Il peut y avoir, voilà, une Mélisande qui débarque. Et il peut y avoir, en finale,
Avoir les Faceless Men, quoi, en effet.
Il peut y avoir les Faceless Men.
Ça peut
y a quelqu'un
vraiment
qui
l'effet
dit...
Mission Impossible. N'importe qui peut enlever son visage et dire, oh, je suis un Faceless Man.
Il y a quelqu'un qui a dit, qui a évoqué le fait que le Faceless Man avec la gueule de beau gosse, là.
Jaqen.
Ouais, Jaqen H'ghar. Ce visage, c'est pas le visage de... Ça se trouve, ce visage, il l'a eu il y a 400 ans.
Mais grave.
Tu vois ce que je veux dire?
Dans le chat, ils disent Jaqen, on peut le revoir.
On peut voir. Un type.
Ok, c'est qui la meilleure personne qui pourrait être Jaqen?
Aemond.
Non, il est trop Targaryen pour ça. En vrai, c'est le seul truc que les Faceless Men peuvent pas faire a priori, c'est se faire passer pour des Targaryens parce qu'ils peuvent pas, ils ont pas le sang pour les dragons.
Ah ouais.
Donc je pense que si tu te fais passer pour Aemond et que tu vas sur Vagar, c'est bonne nuit, tu vois. Donc c'est peut-être le seul truc où les Faceless Men ça marche pas, mais ça peut être Larys, effectivement.
Ça peut être n'importe, ça peut être Kristen Cole, ça peut être Worcestershire sauce là. Non, celui qui
Berry, quoi.
Non, le roi le mec de la Kingsguard qui s'est barré.
Westerling.
Ça peut être lui, ça peut être n'importe qui.
Imagine, il s'est fait assassiner en fait, c'est un Faceless Man. Bref.
Ça peut être l'un des deux jumeaux, ça peut être n'importe qui.
J'aimerais trop. Ça peut être Talia, c'est vrai.
Exactement.
Là, on est un peu genré, on cherche des hommes, mais ça peut être une femme,
tout à
fait. Une faceless woman.
Non, mais moi, ce que je pense qu'il peut arriver, c'est qu'il y a un nouveau personnage qui arrive, qui a la gueule de Jaqen H'ghar, qui s'appelle juste Troululu McPouetpouet, et qui...
Je suis le nouveau lord du conseil.
Et non, qui est juste genre, vraiment lui, et qui se fait buter pour une raison ou pour une autre. Et là, on comprend qu'il se fait buter par un faceless man qui prend son visage.
Ah, et qui a déjà des faceless.
Et là, c'est le début de ce visage en tant que...
Il y a le rôdeur qui dit, est-ce que le twist, ça serait pas Larry, c'est un warg, et Larry, c'était les rats depuis le début.
Ouais, ça peut être ça. Mais
ça
bon.
Marche, c'est un bon twist. Hein. Et ça, c'est pas dans le bouquin, donc ce serait...
Ça peut être ça.
Larry, c'est
n'importe
un warg
quel
qui se fait bolosse par Bran dans le workspace. Mais je vous aime trop, les nerds, franchement. Quel plaisir. All right.
Ça peut être juste le three-eyed de Raven. Hein. Le problème, c'est que l'acteur est mort.
Dernier plan, un zoom sur l'arbre cœur. Et là, l'arbre cœur, il fait un clin d'œil. Et c'est la fin.
Rembourser HBO Max.
Oui.
Rembourser OCS, quoi. Rembourser mon abonnement
ma
OCS.
Ma sorcière bien-aimée, tu sais, un petit ting. Moi, j'y crois. Un truc très WandaVision, tu vois. On part en couille complètement en sitcom.
Meta.
Ça part. Ok, on a fait le tour de ce pénultième épisode de House of the Dragon saison 1.
Oui, je suis ravi. Ben, on a réussi à quand même broder pas mal sur cet épisode.
Oui, franchement. On a été plus concis que d'habitude, mais moins mais qu'on aurait pu l'être.
Ouais, ouais, exactement.
Et en vrai, vous aviez plein de questions. Donc, il y avait quand même des trucs qui étaient pas clairs, ouais. Dont des trucs quand même essentiels à l'intrigue de genre, pourquoi
Otto et Alicent sont
pas d'accord.
Je trouve qu'on fait du bon boulot.
Mais je trouve qu'on fait le boulot de... des scénaristes d'HBO un peu, tu vois. Pas mieux qu'eux, mais on le complète pas mal.
On explique bien.
J'espère, j'espère. Pour rappel, la semaine prochaine, c'est qui la texte, toi et moi. La semaine prochaine, toi et moi, on sera pas ensemble le mardi 25 pour le final, mais on sera ensemble le vendredi 28 pour un débrief XXL du dernier épisode de House of the Dragon sur cette chaîne. Du coup, abonnez-vous. Pour rappel, bis, il y a toutes les semaines un replay en podcast de ce débrief et il y en aura un la semaine prochaine, en plus du truc avec Tequila Tex. Du coup, on va parler de House of the Dragon ensemble jusqu'à la fin, until the end, et on reprendra bien sûr à la saison 2. Il y a les récaps rigolos sur mon Patreon. Tequila Tex.
On fera un truc anti Rings of Power. Non, mais pas anti.
On fera un truc.
Tu vas regarder Rings of Power si tu aimes.
Déjà,
tu en diras du bien.
Bah ouais, peut-être j'aimerais bien.
Et moi, je dirais ce que je pense.
Oui.
Et puis on en profitera aussi peut-être pour parler de l'après. Si on laisse un petit peu de temps se passer, on en profitera pour parler un petit peu des rumeurs de spin-off, des
Tout
rumeurs de saison 2, des
Où
rumeurs de
avec
des,
House of the
Dragon. Tu vois, un épisode un peu spoilerifiant.
Et tu sais, peut-être, fait un épisode full. En fait, venez si vous avez lu le livre ou si vous êtes OK avec les spoilers. Et on va peut-être parler de tout ce qui peut se passer.
Et on va peut-être dire qui est Sauron.
le pire gars.
Et tu vois, genre, un
Merci
épisode un
Bruno
peu...
Merci Bruno d'avoir offert un abonnement à Viserys Targaryen. Je sais pas ce qui se passe, j'adore.
On peut un peu se marrer, on peut en faire un pour la déconne, un peu. En faire un unhinged.
Oui! Mais venez, peut-être on fait un book club du bouquin, on lit ensemble, je sais pas, comme ça vous serez obligés de savoir et vous verrez que c'est bien quand on sait.
Et
on passe un très bon moment aussi.
Et franchement, ouais, ce serait une bonne...
On s'en reparle. Mais en attendant, on se voit quand même dès demain en podcast, nous sur
et
cette chaîne.
Et vous pouvez
chaîne.
Me suivre sur Instagram oui. @tequilatex.
Tout à fait.
Ça
Suivez
me ferait
plaisir.
Et vous
Instagram.
Pouvez aussi, bon, je tweete pas trop, mais si vous avez pas besoin de me suivre sur Twitter parce que sur Instagram vous aurez toutes les informations et même plus. Mais j'ai quand même fait un tweet aujourd'hui. Pour demander aux vrais méga nerds de
Ah, on va voir si ton rep.
Il y en a un qui m'a répondu, c'est Tristan,
okay.
qui m'a fait un TED Talk. On en a, enfin, au final, ça fait pas trop avancer le public, mais il y a quand même.
Oui,
merci à lui d'avoir pris le temps.
Parce que du coup, ta question, c'était.
Ma question, c'est.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait
ma question, c'est. Moi, je suis, depuis que tu m'as parlé de Alice Rivers, que tu m'as rappelé l'existence de Alice Rivers, et que tu m'as fait remarquer que Alice Rivers, personnage qui apparaît un peu plus tard dans la Dance of Dragons, est susceptible d'être en fait Mélisandre.
Mm-hmm.
Depuis que tu m'as fait remarquer ça, je me suis renseigné sur le sujet et j'arrête pas de relire des trucs sur le sujet. Et il y a une partie des gens qui l'ont remarqué aussi,
mm-hmm.
mais je trouve pas beaucoup en fait. Je trouve pas assez. Et quand tu googles Alice Rivers, les gens disent Elisabeth Olsen, la meuf qui joue Wanda dans
oui.
WandaVision, a été castée pour la saison et en pour parler pour jouer dans la saison 2 de House of the Dragon. Et c'est sûr que ce sera Alice Rivers parce que c'est déjà une sorcière.
Oui.
Donc ce serait vraiment caster la même actrice pour deux rôles qui sont très semblable, ce serait vraiment genre typecast de ouf, la subtilité de tout ça, mais quand même là, ce serait vraiment
ouais.
méga abusé.
Ouais.
Mais donc ou alors Young Mélisandre, ou alors Young Mélisandre, mais
alors,
du coup
Mélisandre
est quelqu'un d'autre.
Ce fameux Tristan, c'est que déjà dans une ancienne interview, George R. R. Martin semble suggérer que Mélisandre n'était jamais venu de Essos à Westeros avant, donc en gros peut-être c'est la première fois qu'elle est venue pour venir voir Stannis, mais ça effectivement ça peut se changer. Qu'elles ont des physiques différents.
Ouais, elles ont juste les cheveux pas de la même couleur. Oh waouh.
Ouais, et que Mélisandre, sachant que bon, elle change visiblement d'apparence, et qu'elle aurait déjà du coup autour de 200 ans. Bon, je sens que t'es pas convaincu dans tes replies, je te sens pas convaincu parce qu'on a très envie. Que Alice Rivers soit là déjà et que
donc,
si elle est Mélisandre, c'est fun.
Si vous avez rien à foutre et que vous êtes sur Twitter et que vous avez la réponse et que vous avez des arguments contre Alice Rivers et Mélisandre,
mm-hmm.
Donnez-les-moi parce que moi je sais pas où ils sont.
Car tu es convaincu. Et ça,
je suis méga convaincu.
Mais tu m'en persuades de trucs et après ça arrive ou pas. Mais ça.
Et je me dis il y a aucune raison qu'ils le fassent pas et ce serait tellement du génie marketing. D'un point de vue marketing, c'est tout bénef. D'un point de vue genre un cheap trick, tu vois, pour faire un max de parler du truc sans...
Comme Rhaenys sur son dragon, quoi.
Ben exactement, plutôt que de faire ça, mettez-nous Mélisande, quoi. Je trouve que ce serait dommage de pas le faire, en fait.
C'est tout ce qu'on demande.
Donc, voilà. Dites-moi si vous avez des cons.
Tout à fait. Et allez, Suze, Tequila Tech sur Instagram aussi, où tu viens de publier des nouvelles photos d'une qualité incroyable. Allez lui mettre des likes. Ok, faites
lui. C'est que la première, c'est que la partie, c'est que le premier look.
Un sur trois.
Il y a un look sur, il y a deux autres looks.
C'est la saison 1. Merci beaucoup, Kiora, pour le sub. Je viens de le voir passer. Bisous, doudou.
Et allez, venez me voir au Rex aussi si vous voulez faire teuf. Venez me voir au Rex. Je joue en back-to-back avec Greg, le résident de la Créole, la meilleure soirée de Paris, au Rex Club le 29.
Ok. Allez voir Teki mixer presque pour Halloween.
Allez, bisous.
Bien. Des gros bisous et à très bientôt, à la semaine prochaine, sur cette chaîne. Salut!
Merci beaucoup d'avoir écouté nos digressions. Rendez-vous mardi prochain à 21h sur Twitch et mercredi prochain en podcast pour un nouvel épisode. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou un petit mot gentil sur Spotify. C'est la meilleure façon de le faire rayonner. Pour rappel, vous pouvez aussi retrouver chaque lundi le récap rigolo de l'épisode de House of the Dragon de la semaine sur patreon.com/mymyhgl.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée. Vous pouvez retrouver le reste de mes contenus audio sur le flux Mimi Hegel, mais en podcast, m'écouter avec la créatrice de contenu Marie Kigai chaque mardi dans le podcast BFF et me retrouver tous les dimanches en compagnie de Fabrice Florent dans notre podcast cinéma Le Film Club. Pour les récaps rigolos de séries, ça se passe sur Patreon. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite une très belle journée et un grand merci à Valentin Nortier pour le générique.